Donc, dans un premier temps, on va prendre les. Annick va prendre les présences.
Donc, M. Sartorois.
Présent.
M. David Christopher.
Présent.
M. Jean-Yves Tourmel.
Présent.
M. Luc Dion.
Présent.
M. Yvon Dumont.
Présent.
M. Yves Turgeon.
Présent.
M. Martin Lacasse.
Présent.
Madame Denise Dumac.
Micro est fermé.
M. Sébastien Bourget. M. Sébastien Bourget.
Oui.
OK. Madame Manon Goulet.
Présent.
M. Germain Caron.
Présent.
M. Martin Jicoté.
Présent.
M. Bernard Morin.
Présent.
M. Denis Laflamme.
Présent.
M. Éric Tessier.
Présent.
M. Jacques Bruno.
Présent.
M. Pascal Fournier.
Présent.
M. Daniel Pouliot.
Présent.
M. Gilles Breton.
Présent.
Et M. Christian Lacasse.
Présent.
Moi, deux petites minutes, j'ai un petit problème.
Donc, on prend l'ordre du jour. Vous avez pris connaissance de l'ordre du jour. Dans le Varia, on nous a déjà annoncé l'invitation Saint-Damien. Je le mets-tu de même, Sébastien?
Oui, ben c'est moi et Pascal. Là. C'est une invitation de Pascal et moi. Là.
Donc, invitation.
Oui.
Ensuite, j'aurais peut-être une petite modification à l'heure du jour, étant donné qu'on a la présentation du rapport financier 2019. On va le faire en début de séance, là, à la période rencontre. Donc, le point 9.2 qui s'appelait rapport financier 2019, on va le déplacer là, au début de la rencontre, 5.1. Et j'aurais deux autres points à ajouter à la section administration. On aurait un dossier en lien avec FRR, volet 2, projet local. C'est un projet de Saint-Raphaël qui a été déposé là, en lien avec le Fonds Région Ruralité. Donc, ça va être un projet là, adopté. Et on va avoir également ce qu'on a parlé en huis clos tout à l'heure, le point ouverture poste de direction au niveau du service d'ingénierie.
Ça vous va, si ça va, une proposition pour l'acceptation de l'ordre du jour?
Yves Turgeon.
Yves Turgeon, appuyé par Denise?
Oui.
Ça va? Procès verbal de la réunion du 17 juin 2020. Questions, commentaires ou adoptions?
Propose, Yvon.
Yvon propose.
Jean-Yves seconde.
Jean-Yves seconde. Compte et recettes du mois, même chose. Questions, commentaires ou adoptions?
Propose. Je propose.
Gilles propose.
Sébastien appuie.
Sébastien appuie. Maintenant, on est rendu déjà à rapport financier par David qui va nous résumer ça.
Oui, c'est beau. Bon, bonsoir.
Fermez vos micros, ceux qui ne l'ont pas fait, là, parce qu'il y a du retour.
C'est beau? Est-ce que vous m'entendez?
Oui.
C'est beau?
Oui.
C'est beau? Alors, bonsoir, mesdames et messieurs. Alors, au niveau compte du rapport financier, vous avez une copie, je crois. Là, je ne sais pas si on devait le dérouler ou je sais. Bon. OK, parfait, merci. Alors, on va y aller page par page. On va compte, bon, c'est la page d'introduction. La page du rapport de l'auditeur indépendant sur les états financiers résumés. Donc, ça répondait à ma compte aux normes d'audit et aux normes pour les municipalités. Alors, ça, c'est le rapport, la table des matières, et on commence par les chiffres ici à la page 1. Alors, ici, c'est les revenus et les dépenses, en compte de fonctionnement. Alors, les revenus, les quotes-parts, 6 346 000, transferts, 3 500 000, et les autres sources, et l'autre revenu de source locale, 5 700 000. Alors, vous voyez le numéro de relevé. On va voir plus tard, en fin de compte, le détail de tous ces chiffres-là. Alors, 15 148 000 de revenus total. Les dépenses de fonctionnement, administration générale, 2 600 000. Sécurité publique, 380 000. Transport, 1 900 000. Hygiène du milieu, 5 200 000. Santé, bien-être, Madame Midi, 41 000. Aménagement, urbanisme et développement, 3 millions. Loisirs et culture, 346 000. Prêt de financement, 314. Donc, pour un total de dépenses de 14 millions. Mais bien entendu, il y a les affectations, les financements et affectations. Alors, au niveau du remboursement de la dette à long terme, en fin de compte, ça, c'est la partie capitale, 1 500 000 $ qui est payé à même les cotes-parts. Alors, les investissements toujours payés à même les cotes-parts, 196 000 $ On va le voir en détail tantôt de tout ça. Excédent accumulé, affecté, non affecté, 472 000. Donc, quand c'est en parenthèse, c'est un revenu. Alors ça, lors du budget 2019, on avait adopté des affectations pour venir financer en raison des opérations de l'année 2019. Alors, on l'avait adopté à la fin 2018 pour un montant de 472 000. L'excédent accumulé FDT parc rural est créé, 12 000. Donc, là-dedans, en fin de compte, ça, c'est en fin de compte les montants pour financer des projets, hein, des projets locaux et régionaux, et aussi pour payer, pour financer la piste cyclable. Alors, cette année, en fin de compte, on a déjà un fonds créé depuis quelques années. Alors, on a comme un fonds qui est des surplus qui sont accumulés dans mon excédent accumulé au bilan. Et là, cette année, on a eu besoin de 12 000 $ pour financer les projets qui ont été payés. Et non, ce n'est pas nécessairement engagé, mais ceux qui ont été payés en date de 2019. Alors, ça connaît les projets et la piste cyclable. Le fonds de réserve, fonds réservé, fonds éolien, 96 000, ça, c'est le contraire. C'est que lui, le fonds éolien nous a généré 981 000 $ mais on a eu besoin de seulement 885 000, ça pour payer le financement du parc éolien, pour payer avec compte les municipalités et la municipalité simplement, et aussi différents projets. Alors, on a comme un surplus de revenus versus aux obligations qu'on avait. Alors, l'excédent de 96 000, on l'a renvoyé, on a renfloué le fonds avec compte du même montant, ce qu'on va voir tantôt, avec compte, ça l'a augmenté. Fonds réservé, FLI FLS, 133 000. Remboursement provenant des promoteurs, FLI FLS, 100 717. Donc, 100 717, bien, c'est des remboursements qu'on a reçus des promoteurs pour les financements FLI FLS. On a 55 000 qu'on a encaissé des promoteurs pour le FLI, 45 000 pour le FLS. Si on fait le net de 133 000, un peu plus haut, plus loin de 100 000, ça fait environ 33 000. Bien, 33 000, bien, c'est les intérêts générés par le FLI FLS. Alors, ça, ça ne vient pas jouer dans mon excédent d'exercice. Je le renvoie avec compte dans mes fonds réservés pour pouvoir, avec compte, éventuellement plus tard, reprêter cet argent-là à d'autres promoteurs pour d'autres projets. Alors, au niveau de l'excédent d'exercice, c'est 206 000 $ qui était généré en date du 30 décembre 2019. On va voir le détail plus tard dans les dernières pages, comment ça s'est réparti par partie, ce 206 000 $. En page 2, ça, c'est les états de l'investissement. Alors, on a le fonctionnement qu'on vient de voir, il y a l'investissement qu'on voit ici. Alors, cote-part 27 238, parce qu'on sait qu'annuellement, il y a des cote-parts qui sont octroyées pour les immobilisations. En 2019, on avait octroyé 30 000, mais on a eu besoin seulement de 27 000 parce que nos dépenses d'investissement de la partie 1, c'était 27 000 $ Donc, on n'a pas eu besoin de plus d'argent que ça. Donc, la différence entre 30 000 et 27 000, bien, je le mets dans le fonctionnement. Cote-part municipalité hors territoire, 64 606. Alors, on sait qu'on a eu un seul nouvel emprunt en compte qui a été financé en 2019 au montant de 292 900. Alors, il y a 64 000 $ qui va être financé par les municipalités hors territoire. Alors, c'est ce montant-là. Activité de fonctionnement, 196 000. Alors, ça, c'est l'objectif de fonctionnement, c'est ce que je disais tantôt. C'est pour pouvoir financer mes immobilisations. Il y a 196 000 qui provenaient de mon fonctionnement. C'est le même chiffre qu'on a vu à la page précédente. Financement à long terme des objectifs d'investissement, 228 000 qu'on voit ici, plus 64 000 plus haut, ben c'est mon 292 900, en fin de compte, qui est mon nouvel emprunt qui a été généré, qui a été octroyé ou qui a été financé, mon seul règlement qui a été financé vraiment en 2019. Il y a eu un seul. 133 000 les fonds réservés, puis FLS, on va le voir tantôt un peu plus tard à quoi ça allait servir ce revenu-là. Ensuite, les dépenses de mobilisation, il y a le 27 238. On l'a vu, ça a été financé entièrement par la quote-part. Les fonds du 1 035 000. Alors ça, ça a servi en fait compte à financer des camions et aussi la rénovation du garage au site d'enfouissement. Et les jeunes du milieu enfouissement, ben, il y a eu des travaux en fait compte au site d'enfouissement, là, aux travaux au LET, et il y a eu des machineries en fait compte, différentes machineries qui ont été achetées. Alors pour un total de 135 000 d'investissement pour les jeunes du milieu enfouissement et 113 000 $ en fait compte, ça c'est la piste cyclable. En fait compte, il y a eu des financements reliés, il y a eu des investissements reliés à la piste cyclable. Alors, qui va être financé par règlement d'emprunt. Et ici, le prêt FLS, alors c'est relié à mon 133 000 $. Alors, 133 000, ben, c'est les nouveaux prêts que j'ai octroyés, que j'ai prêtés à des promoteurs pour des nouveaux projets. Ben, ça, c'était financé, comme on le voit plus haut, par les fonds réservés et non par le fonctionnement normal. Alors, le 133 000, ben, il y a eu 59 000 $ qui est octroyé dans le cadre du FLS. Et 74 000 dans le projet, dans la section FLI. Alors, pour un déficit de 794 000 $ ben ça, c'est un déficit qui fait qu'il y a plus de dépenses que de financement qu'il y a eu. Mais si on va compte, c'est relié à des projets, à des règlements d'emprunt en cours, à 7 projets qui sont en cours, qui étaient en cours au 30 décembre 2019 et qui sont en attente éventuelle de financement à long terme. Alors, pour ça, c'est un déficit, en compte, de financement. Et non un déficit d'opération. Alors, c'est un montant qui va être financé plus tard. Page 3. Alors, mes non affectés. Alors, ça, c'est mes excédents de fonctionnement. Avant, on les appelait les surplus. Maintenant, ils ont changé de nom. C'est les excédents de fonctionnement. Alors, non affectés, ben, c'est le surplus libre. 1 874 000. L'excédent de l'exercice de l'année, 206 000. On l'a vu à la page 1. Ensuite, de 227 373, ça, c'est lors du budget 2019. On a décidé, en fin de compte, d'affecter ce montant-là pour, en fin de compte, les opérations de 2020. Alors, j'ai comme réservé ce montant-là. Alors, j'ai un seul affaire de 1 843 000 et 1 843 000, c'est le surplus libre, en fin de compte, en date du 30 décembre 2019. Et on va vous présenter plus tard un tableau, là, de la façon que ce 1 843 000 est réparti entre les différents parties. L'affecté, 1 149 000 au début, 227 373, on vient de parler. C'est relié au budget 2020 qu'on a approuvé. Ensuite, à la fin 2019. Ensuite, 485 464. Alors, on a utilisé 485 464 $ en fin de compte pour financer du fonctionnement. En fin de compte, par exemple, les FDT, le fonctionnement normal, on l'a vu tantôt. Alors, pour 1 191 663, et on voit en bas du tableau la répartition du 1 191 663, ben, c'est le budget 2020, 227 000 qui va servir aux opérations de 2020. Le FTL parcural, il y a 884 000 $ de montant de somme affectée pour payer, en fin de compte, des projets. En fin de compte, parce que là, on sait qu'on est en fin de programme. En fin de compte, en 2020, on va commencer à libérer de plus en plus d'argent. Et la CRI pour 80 000 020 $. Alors, c'est ça, mon 1 191 000. En quoi c'est réparti les sommes accumulées dans ce montant-là? Pour 3 35 000 d'excédents de fonctionnement accumulés qui sont des deux. Le non affecté et l'affecté. En page 4, on voit le solde du début des projets en cours, 693 000. On a vu à la page 2 le 794 000 de déficit d'investissement, en fin de compte, de projets qui est en attente de financement à long terme. Alors, ça l'a augmenté. Et il y a un 130 000 $ en fin de compte qu'on a. Il y a des règlements d'emprunt qui ont été fermés et qui ont eu des excédents là-dessus, en fin de compte. On a comme trop financé. Et ça, ce 130 000 $-là va servir éventuellement à payer les capitales et dettes relativement à ça, les capitales et intérêts relatifs à ces règlements d'emprunt-là qu'on a trop financés. Éventuellement, ça va servir vraiment au lieu, ça va aider en compte à payer les capitales et intérêts relativement, on le voit plus tard, on le voit un peu plus bas, là, ça disponible des règlements d'emprunt permis, 130 000, c'est relié à deux règlements d'emprunt de la partie 3. Alors, on va pouvoir servir cet argent-là pour, en 2020, régler une bonne partie en compte du capital et intérêt relié aux deux règlements d'emprunt là, qui ont été financés en 2019. Le fonds FLS, donc 369 705, donc ça, c'est toute la compte, les encaissements des promoteurs, les investissements promoteurs, les intérêts et encaissés. Donc, il y a comme un 369 705 qui est comme dans la caisse, on peut dire, pour pouvoir financer de nouveaux projets. On raconte de surplus, on raconte de nouveaux projets à venir là, pour les promoteurs. Le fonds éolien, j'ai 615 000. Les 96 000, en fin de compte, que j'ai pas eu de besoin, en fin de compte, que j'ai eu plus de redevances du fonds éolien que de dépenses. Alors, ça a venu réaugmenter mon fonds éolien de 715 à 811 000 $. Alors, si on voit la partie du bas, l'état du fonds éolien, 500 000 sur la réserve est au maximum, et il y a un 311 000 qui est disponible pour le fonds régional, pour des projets, en fin de compte. Et c'est un montant qui est disponible. C'est encore un montant avec un qui est de côté pour pouvoir financer les projets. Alors, total des fonds réservés, moins 307 000. La page 5, le bilan ou l'état de la situation financière. Donc, l'encaisse, 1 500 000. Encaisse CIM, 250 000. Alors, on sait qu'on a eu un montant avec qu'on a vendu des actifs il y a 3 ans. On a une dette, on a un montant à recevoir relié à ça. On encaisse en compte des montants mensuellement et des intérêts aussi. Alors, 250 670, en compte, c'est l'argent que j'ai accumulé relié au. Parce que le montant qu'on a vendu au niveau de l'actif, on ne l'a pas tout encaissé. On va l'encaisser au fur et à mesure du remboursement de capital et du montant en compte des intérêts qu'on encaisse relié à ça. Alors, il y a comme 250 170 qui, lui, c'est de l'argent encaissé par la MRC relativement à cette bande d'actifs-là. Les débiteurs, 4 800 000. Les placements en fiducie, 1 196 000. Bien, ça, c'est toujours la même chose d'année en année. C'est le montant qu'on cumule pour éventuellement payer la fermeture du site en prissement en plusieurs années. Alors, il y a il y a de l'argent qu'on place annuellement en fiducie et qu'on met de côté qui va servir à payer éventuellement ce passif-là. On voit le 1 196 000, on voit le même chiffre dans le passif. Placement à long terme et prêt, FLS, 6 427 000. On va voir tout à l'heure tantôt, bien, c'est le placement dans le parc éolien et les prêts FLS qu'on a octroyés. 1 million, ensuite, l'immobilisation corporelle, 15 200 000. L'inventaire, 196 000, ça c'est l'inventaire aussi d'emprisonnement. Et les frais de vente, 216 000. Donc, les frais de vente sont plus élevés parce que il y a eu des travaux de recouvrement qui ont été payés et qui vont servir pour les prochaines années. Il y a aussi de la police d'assurance qu'on a payée d'avance et c'est pour 2020. Il y avait des montants plus élevés cette année. Alors, il y a 216 000 de prévus d'avance pour 30 millions d'actifs au total. Au niveau du passif, il y a les emprunts temporaires. Alors, 540 000, c'est qu'à la fin décembre, on a, pour financer des règlements d'emprunt en cours, on a environ 330 000 $ qu'on a emprunté sur une marge de crédit. Et le 210 000, ben, c'est pour le prêt de FTQ relié au FLS. Alors, ça, c'est le même montant que au cours des dernières années. Compte à payer, 2 619 000. Les revenus reportés, 276 000. Les dettes à long terme, 11 447. On voit, à la note 9, on voit le détail de tout ça. Le passif au titre des activités de fermeture du site d'emprisonnement, 1 196. C'est le même chiffre qu'on a vu dans l'actif, qui est en fiducie. Et les excédents accumulés. Alors, les excédents accumulés, les deux premiers chiffres, on en a parlé tantôt. Ensuite, les dépenses constatées dans le futur, ça, c'est la dette du FLI, 505 000, qui est encore reportée avec compte d'une autre année. Et les investissements nets dans les éléments d'actifs à long terme pour balancer les immobiliers et les dettes. Alors, ça fait 3 476 000. À la pochette, c'est les notes des états financiers, donc je vais faire grâce de ça. C'est les notes plus standards. À page 8, on voit les comptes à savoir. C'est ça. Alors, les débiteurs, donc avec eux, il y a le gouvernement du Québec, il doit 1 400 000. Là-dedans, il y a un 700 000, avec, il y a au-dessus de 700 000 $ qui est relié à la collecte sélective. Donc, on redevance de la collecte sélective. Justement, on fait un rapport annuel là-dessus, un rapport d'audit qu'on doit produire avant le 31 juillet cette année et qui nous octroie avec compte des redevances pour la collecte sélective. Alors, le 770 000 au 30 décembre 2019 qui est à recevoir, on l'a encaissé par la suite, en début 2020. Le gouvernement du Canada, 165 000. Organismes municipaux, 1 349 000. Là-dedans, avec compte, la majeure partie, c'est le montant à recevoir des municipalités hors territoire pour financer les dettes de la partie 2 et de la partie 3, aussi d'enfouissement, parce que les municipalités hors territoire vont enfuir avec compte, leur déchets avec compte, dans le site d'enfouissement. Alors, il y a 960 000 avec compte, de ces 960 000 $ de dettes qui sont à recevoir des municipalités hors territoire. Et puis la différence en compte avec mon 1 340 000, c'est 380 000 $ en compte de facturation faite à différentes municipalités en compte de la MRC ou de la MRC de Chasse et à d'autres municipalités. Ensuite, coopérative d'informatique CIM, on en parlait tantôt. Alors, on a eu une bande d'actifs il y a en 96, si je ne me trompe pas. Et là, ben il y a 942 000 qui est encore à recevoir en date du 31 décembre 2019. D'ailleurs, j'ai une note un petit peu plus bas. Là. Un peu plus bas, on voit la note, un peu plus de détails. Alors, il y a deux emprunts. Il y a un emprunt de 884 000. Lui, il n'y a pas eu de changement parce qu'il y a un moratoire de 5 ans. Et l'autre, en fin de compte, qui va être remboursé à partir de 2022. Et l'autre, le plus petit montant, ben, lui, il y a eu un remboursement de presque 30 000 $ dans l'année. 28 000, à raison de 2 806 de versement mensuel, incluant les intérêts. Alors, ça, 64 000 et l'autre, 889 000. Donc, si on va un peu plus haut, on retourne dans le tableau des débiteurs, les DEB, 464 000 et l'entreprise et individus, 516 000 pour 4 857 000. La note 4, placement à long terme, prêt, IFLS. Donc, ça, comme je disais tantôt, ça comprend mon placement dans le parc éolien. C'est ça, le parc éolien. Puis, les prêts faits aux entreprises dans le cadre du FLI et du FLS. Simplement. Page 9, les immobilisations. Je vous grâce à ça. La note 6, l'inventaire, sur le site d'enfouissement. La note 7, les emprunts bancaires. La note 8, les critères recourus. Donc, le détail, encore les fournisseurs. 858, le gouvernement du Québec, le gouvernement du Québec et du Canada, les organismes municipaux, bon, là-dedans, il y avait le DEB pour 335 000, la cour municipale, il y avait un petit montant de 19 000 qui était à payer aux municipalités, et les carrières sablières. Les carrières sablières, on sait que toutes les redevances, toutes les droits de 2019 n'avaient pas été payées en date du 31 décembre, incluant celles de Chouan. Alors ça, c'est pour ça qu'il y a un montant. Le montant, dans 927 000, il y a un montant le plus substantiel, c'est les carrières sablières pour toute l'année 2019. Tout à l'heure, vacances et congés, 539 000, intérêts courus, 69 000, pour 2 119 000 de crédits recourus. Page 10, les dettes. Donc, il y a 10 dettes en tout, avec compte qui est lié à la MRC. Alors, il y a eu 2 dettes qui ont été remboursées entièrement au cours de 2019. Sur du haut. Et il y a une nouvelle dette qui a été, comme je l'avais dit tantôt, il y a une nouvelle dette qui s'est créée en 2019 de 292 900. Le reste, c'est tout des remboursements. Là, il n'y a pas eu de changement en tant que tel, là, notoire à ce niveau-là. Donc, c'est le reste, c'est des remboursements là, qui sont conventionnels. Il n'y avait rien de spécial. À la page 11, comment ces dettes-là vont être remboursées? Comme je disais tantôt, il y a 959 000 qui est relié à des municipalités qui sont assumées par des municipalités hors territoire. Le gouvernement du Québec, 35 000. Alors, on le voit, il y a une bonne différence parce que la piste syllabe, on a encaissé un bon montant relatif au gouvernement du Québec. Donc, il en reste quasiment pas. Il en reste encore pour 2 ans, ce 35 000-là. Il y a 2 dettes là, qui sont remboursables sur 2 ans là, qui sont à recevoir. Après 2 ans, là, il n'y aura plus de montant à recevoir relatif à ça. Les entreprises de 437 000, bon, ça, c'est les flux FLS. Et l'ensemble des mutualités ben, doivent assumer 10 51 000 de dettes. Les versements au cours des 5 prochaines années. Donc, tu as mis, ça, c'est la partie capitale. Les régimes de retraite. Bon, ça, c'est la partie. Il y a un 6, la partie, il y a 263 000 dans votre compte de régimes de retraite qui a été assumés par la MRC en faveur de ses employés, avec les cotisations qui ont été payées par la MRC. Et on voit les pourcentages payés par la MRC, payés par l'employé. Les engagements pour 2020, donc reliés à différents jours, notamment, par exemple, les plus importants, c'est le transport adapté pour le minibus et le taxi, qui vont venir à échéance en 2024. Il y a aussi des organismes, 156 000, et aussi le transport interurbain pour 212 000. Donc, c'est pas mal les montants les plus importants. En page 12, il y a aussi un autre engagement pour la vidange, le transport et le traitement des eaux usées, 493 000 en 2020, et qui va venir à échéance en 2022. Les éventualités, ça ne va pas changer. C'est deux lettres de garantie. C'est toujours les mêmes, reliées au parc éolien, en faveur d'un fournisseur. Donc, ça n'a pas changé. Page 13, avec ça, c'est les détails des revenus et dépenses, donc des transferts de droits, compensation provenant de la collecte sélective, que je parlais tantôt, qui est à recevoir au 30 décembre 2019, 771. Les montants qu'on reçoit pour les ressources naturelles, si on reçoit ça là, annuellement depuis quelques années. Les FDT, 815 000 $, donc ça serait relatif aux projets locaux et régionaux et aussi aux agents ruraux et aux DEB. Donc, ça serait 815 000 $ et 88 000 $ reliés à votre compte à l'aménagement pour 1 821 000. Les autres subventions, l'administration générale n'a pas eu. L'année passée, on avait acquis le dernier montant relié au village branché. Sécurité publique, 124 000. Transport collectif, 208 000. Transport adapté, pardon, 208 000. Transport collectif, 87 500. Transport interurbain, 121 000. Hygiène du milieu, matériel résiduel, 442 000. Donc, c'est notamment les redevances qu'on reçoit en compte pour les matières résiduelles. L'aménagement urbaniste, 59 000. Santé, bien-être, 41 000. Rénovation urbaine, 231 000. Promotion et développement promotion et développement économique, 12 000. Ensuite, loisirs et culture, 397 000. Et ça, le montant plus substantiel, c'est normal, c'est le montant qu'on a encaissé pour relatif en compte à la piste cyclable qu'on reçoit du gouvernement du Québec. Mais c'était la dernière, c'est le montant le plus substantiel, c'est cette année en 2019. C'est la dernière année qu'on reçoit un montant substantiel. Au cours des prochaines années, le montant va pas mal plus bas, en compte à ce niveau-là. Donc, 3 547 000 de transfert. Page 14, les autres revenus de sources locales. Bon, les services rendus aux autres municipalités. Donc, l'administration générale, 95 000. Protection contre les incendies, 73 000. Réseau routier, 637 000. Services d'infrastructure. Et jeunes du milieu, eau et égout, 3 600. Matières résiduelles, de 761 000. Gestion de l'eau, 3 300. Aménagement urbaniste, 526 000. Donc, 2 102 000 pour les autres sources locales rendues aux organismes municipaux. Et les autres sources, les autres services rendus, donc administration générale, transport adapté, l'hygiène du milieu, 590 000, l'aménagement, 245 000, loisirs, donc pour un grand total des autres services rendus pour 3 318 000. Page 15, donc les autres sources de revenus, il y a 981 000 qu'on a encaissé des redevances du parc éolien, les redevances de carrière sablière, 597 000, licence et permis, 23 000. Amende, pénalité et cours municipal, 652 000. Les intérêts, 148 000. Autres, 31 000. Ce qui fait un total d'autres revenus de 2 435 000 et les autres revenus de sources locales pour 5 752 000. La chaise, c'est les dépenses. Donc, sur l'administration générale, on a un total de 2 606 000 qui se partagent entre les dépenses du conseil, l'application de la loi, gestion financière administrative, évaluation et autres. La protection des incendies, 320 000. Le transport, c'est 1 959 000 qui se fait partie entre les redevances de carrés sablières payées aux municipalités, 572 000. Il y a une différence de 25 000 avec les revenus qu'on a vus tantôt. C'est des frais d'administration qu'on garde. Les services d'infrastructure nous ont coûté 564 000, transport collectif 208 000, transport adapté 417 000 et le transport interurbain 526 000. Les jeux du milieu, c'est 1 235 000. Donc, le traitement des eaux usées, 613 000. Collecte et transport, 2 200 000. De même que l'élimination, 2 200 000. Cours d'eau, 81 000. Ce qui fait un total de 5 200 000. Alors, le total de ces quatre sous-parties, 10 172 000, qui se rapporte à la page suivante. Santé et bien-être, bon, Mme Midi, 41 000. Aménagement urbaniste, 3 157 000 au total. Donc, qui se répartit l'aménagement urbaniste, 1 232 000. Et surtout, les redevances provenant du parc éolien versé aux municipalités, 382 000, à Saint-Flément et aux autres municipalités. Promotion et développement économique, 1 259 000. Donc, ça, c'est le DEB, notamment. Ensuite, loisirs et culture, 154 000 d'activités culturelles, 192 000 de pistes cyclables, 346 000. Et les frais de financement qui ont totalisé 314 000. Pour un montant de 14 millions au total de dépenses de fonctionnement. À la page 18, on voit le détail d'un compte par partie, comme on parlait tantôt. Donc, du 206 795 du surplus. Donc, comment ça s'est réparti? On voit la partie 1. Administration générale, 31 000 déficitaires. Sécurité publique, 3 400 déficitaires. Transport adapté, 13 000 de surplus. 12 000 $ transport collectif. Transport interurbain, 2 900 de surplus. Gestion des eaux usées, 5 300. Gestion de l'eau, 24 000. Déficit de 3 200 pour la géomatique. Surplus de 6 200 pour la promotion et développement. Patrimoine et culture, 35 000. La piste cyclable, c'est zéro parce que c'est financé par la CRE. Alors, il y a un déficit-là, bien, la CRE, l'FDT, vient financer avec on, le déficit. Donc, c'est pour ça que ça tombe à zéro. Ensuite, l'aménagement urbaniste, 56 000 de surplus. Les services d'infrastructure, 253 000 de surplus. Inspection régionale, 23 000. Rénovation, 21 000 déficitaires. Évaluation, 103 000. Prêt de financement, 9 700 de déficit. Pour 467 290 000 de surplus de la partie 1. 129 000 pour la partie 2 en déficit. Partie 3, 28 000 d'excédent. Madame Midi, c'est zéro. Inspection urbaniste, 32 000 de surplus. Projet ingénieur forestier, 3 800 de déficit. Cour municipal, c'est zéro, c'est normal. On verse les excédents aux municipalités. Refonte des règlements, c'est un nouveau règlement, c'est la partie 8. Donc, je l'ai distingué. 7 500, c'est une nouvelle distinction cette année. Et les études de financement, 196 000 $. Bon, ça, c'est les études de financement payés avant les quotes-parts. Alors, c'est ça qu'on retrouve notre 206 000 de surplus. Page 19. Donc, comment se répartit mon 196 000 d'actifs d'investissement? Donc, on a parlé tantôt de l'administration générale, 27 000, mais c'est ça, d'investissement, mais ça a tout été payé par la quote-part. 98 000 pour la collecte pour la partie 2 et 98 000 pour la partie 3. Alors, la partie 2, bon, c'est partie 2, c'est de la machinerie, de la rénovation du garage. Et la partie 3, c'est surtout de la machinerie qu'on a achetée en compte avec le 98 000 $. Page 20 et 21, ben, si on raconte, c'est l'État, on raconte du FLI FLS. Alors, la page 20, on raconte les intérêts de 40 dans la colonne 2019, le total des revenus, 42 000 d'intérêts et de prêts recouvrés, 10 000 $ de charges pour un surplus de 32 000. Alors, ça ne vient pas jouer, comme je disais tantôt, dans mon surplus d'année, parce que ça tombe dans le fonds réservé. Alors, pour un actif net de 301 000, et la page 21, c'est mon fameux bilan, alors du flux FLS toujours. Donc, on voit qu'on l'encaisse et à recevoir du DAB, qui est totalisé 579 000, 437 000 de placement pour 1 017 000. Il y a deux dettes de 210 000 en compte pour le FLS, 705 000 pour le FLI, qui était reporté encore pour 2021. Ça fait plusieurs fois qu'il était reporté ce remboursement-là pour 1 017 000 en compte de total. Ça fait pas mal de tour. Est-ce qu'il y a des questions, des interrogations, des commentaires?
J'aurais une question, moi.
Oui.
Monsieur David, à la page 2,
oui.
Dans la section revenus de financement et affectation, cote part municipalité hors territoire, on est à 64 000 versus 566 l'an passé, en 2018 plutôt.
C'est à cause qu'il y a eu moins de financement. Il y a eu un seul financement cette année. C'est directement relié au nouveau financement qu'il y a eu. Alors, c'est vraiment... Quand il y a eu beaucoup de financement de la partie 2 et 3, ben, le montant va être plus haut. Mais quand il y a eu seulement eu 200... Parce que l'année passée, si on totalise, si on, disons qu'en 2018, si on, fait 566 500 pouces, bon, 2 311 000, là, ben, j'ai eu 2 878 000 de nouvelles dettes qui ont été créées en 2018. Cette année, j'ai eu seulement 292 000. Alors, c'est pour ça que le montant est plus petit pour 2019, parce qu'on a eu moins de dettes qu'on a assumées ou qu'on a eu de moins de nouvelles dettes. Il y a eu une seule nouvelle dette qu'on a eue en 2019. C'est
simplement
ça.
Merci.
C'est vraiment ça dépend des nouvelles dettes qui se créent, simplement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon. C'était parfait. on part du tableau. Annick? Allô?
Oups. C'est revenu.
C'est bon, parfait, je suis revenu.
Oui, OK.
Je
peux le partager. On part du tableau?
Oui, je peux le partager.
OK. OK. Donc, ça, on va compte, qu'est-ce qu'on voit ici? On va compte, c'est le. On faisait ça annuellement, on va compte. Comme je disais tantôt, on va compte, à la page 3 de l'état financier, ben, il y avait un surplus non affecté de 1 843 000. Ben, comment ça se répartit, on va compte, par partie, ce surplus accumulé-là? Alors, j'ai mon surplus accumulé du début. L'année passée, on va compte, là, on voit, par exemple, l'administration. Bon, dans la deuxième colonne, on va commencer par la première colonne de chiffres. Là. Surplus accumulé, bien, il se répartit entre la partie 1, 2, 3, etc. Puis dans la, 2, dans la partie 1, bien, il y a des sous-parties. Là. Dans la deuxième colonne, le redressement, c'est qu'en réalité, là-dedans, le CIM, là, bien, c'est le 42 000 d'intérêt de 2018 qui n'avait pas été classé au bon endroit. Alors moi, on l'a mis dans la ligne CIM, puis on l'a enlevé dans l'administration. Parce qu'on disait qu'on voulait séparer le CIM du non-CIM, de l'administration. Alors, 42 000, en fait, c'est les intérêts de 2018 là, qu'on a reclassifiés. La troisième colonne, règlement d'emprunt fermé, il n'y en a pas, mais l'année prochaine, on va retrouver ce chiffre-là. Comme on a dit parler, qu'on a parlé cette année, qu'il y avait des règlements d'emprunt fermés, là, qu'il y avait des surplus, on va voir les chiffres l'année prochaine. Mais ça, cette année, il n'y en a pas. Affectation 2019, alors ça, lors du budget de 2018, La première colonne, c'est surplus accumulé du 1er janvier 2019, pour ça. Alors, l'affectation 2019, on est en moins, on a affecté les montants. Résultat 2019, bon, là, on voit la colonne résultat 2019. Alors, on voit les par partie, on peut voir l'administration, on voit le CIM 47 744, donc ça, c'est les intérêts de 2019, et on le voit par partie, avec on, puis là, on voit la partie 1, 467 290, c'est le même montant qu'on retrouvait à la page 18 de la partie 1. Alors, tout ce qu'on voit à la page, à la colonne résultat 2019, ça correspond exactement au montant, avec on, de la page 19. Alors, on voyait avec compte, il y avait ma perte de 129 000 de la partie 2, 28 000 de la partie 3, 32 000 pour la partie 5, 3 817 pour la partie 6, etc., pour 403 000. Mais comme on disait, il y a 196 000 avec compte pour financer de l'investissement à la colonne suivante. Alors, si on voit la colonne de résultats 403 000, moins l'investissement 196 000, le net des taux, ça correspond vraiment à 206 795 qui est mon surplus de l'année. Alors, on a dit tantôt, on a compte les investissements, il y avait 98 000 qui étaient pour la partie 2 et la partie 3. Alors, tout ça, après tout ça, là, on a 2 071 000 de surplus non affectés avant affectation de 2020. On le voit ici. Puis, lors du budget de 2020, on a, à la fin 2019, on a adopté des nouvelles affectations pour 227 000 $. Alors, ça fait. Alors, le surplus non affecté, là, comme on voit, là, après affectation, on le voit ici. 151 000 pour administration, 1 199 000 pour le CIM. Puis, dans le CIM, comme je disais tantôt, il n'est pas tout encaissé. Il y a 250 000 d'encaissé sur 1 199 000. Donc, il reste encore beaucoup d'encaissement, en compte, à ce niveau-là. La très grande majorité de ce surplus-là est encore à recevoir. 20 000 de transport, transport interurbain, 15 000 de transport adapté, moins 7 800 de transport collectif, 234 000 pour les eaux usées, 165 000 pour les infrastructures de surplus, 78 000 de déficit dans la partie 2, 100 000 dans la partie 3 de surplus, 35 000 dans la partie 5, 974 dans la partie 6 et partie 8, 6 500. Alors, ça donne mon 1 143 000 qui correspond exactement à la page 3. En fait, dans le surplus non affecté, c'est le même total. Et dans la colonne transfert, parce que là, il y a des transferts entre les eaux usées et les îles d'expression régionale, mais c'est un transfert 2020. Alors, c'est un peu l'explication du tableau, en fait, à ce sens-là. Alors, c'est quoi disponible? C'est quoi les surplus par partie et par sous-partie?
Alors, des questions sur le rapport financier? Sinon, vous prenez le temps de la regarder. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez toujours rappeler. Oui, on va l'adopter, mais vous pourrez toujours rappeler Annick. Si Annick n'a pas les réponses, on transférera au niveau de David pour avoir les compléments. Mais juste vous rappeler, là, le surplus de 1 800 000. Il y en a pratiquement 1 108 000 qui provient, 1 199 000 qui provient de la vente de CIM. Ouais. Donc, 800 quelques mille de comptes à recevoir.
C'est fait ça. Que,
regardez surtout la partie administration, c'est 201 000 qu'on peut se partager. Ceci étant dit, il faudrait l'adopter. Est-ce que j'ai une proposition pour adopter les états financiers présentés?
Martin J. propose.
Seconde.
Yves Turgeon, seconde. On va enlever l'écran partagé.
C'est bon. Merci beaucoup.
Merci, David.
Merci beaucoup.
Merci.
À la prochaine.
À l'an prochain.
Oui, c'est bon. Merci.
On revient à notre ordre du jour. On serait maintenant rendu à l'aménagement et urbanisme à vie de conformité. Annick?
Donc, première conformité, c'est pour le règlement numéro 657-20 qui modifie le règlement de zonage de la municipalité de Saint-Henri.
Proposition?
Manon propose.
Sébastien appuie.
Donc, prochaine conformité, c'est le règlement numéro 450 qui modifie le plan d'urbanisme de la municipalité de Saint-Anselme en conformité avec le schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC.
Je propose.
Seconde. J'ai juste pas bien compris.
Sarto.
Sarto. Secondé de?
David.
Merci. Donc, la dernière conformité, règlement numéro 451 qui modifie le règlement de zonage numéro 60 de la municipalité de Saint-Anselme en conformité avec le schéma d'aménagement révisé de la MRC.
Denis
et?
Luc.
Donc, on est maintenant rendu au dossier à portée collective, dossier 389-86. On a Louis qui, normalement, devrait être là pour nous expliquer le suivi à faire sur ce dossier. Louis?
Bonjour. Vous m'entendez, c'est beau?
Oui.
OK, parfait. Donc, trois dossiers, trois projets de résolution ce soir. Le premier, je vous rapporte à la fin avril dernier où on avait reçu l'orientation préliminaire modifiée pour notre article 59 là, qui concerne la construction des résidences là, en zone agricole. Donc, à la fin avril, on avait reçu notre orientation préliminaire modifiée. Dès que qu'on a reçu ce document-là, moi, j'ai fait la validation avec notre représentant régional et auprès d'une autre personne à la CPTAQ pour savoir qu'est-ce qui en advenait, quand est-ce qu'il sortirait la fameuse décision qu'on attend depuis très longtemps. Ce qu'ils m'ont confirmé par courriel de ces deux sources-là, c'est qu'ils allaient rendre leur décision 30 jours après l'orientation préliminaire modifiée. En parallèle, on a des citoyens aussi qui suivent le dossier depuis un certain temps puisqu'ils désirent faire des constructions résidentielles. Donc, eux, ils ont fait des représentations directement auprès de la CPTAQ pour savoir quand est-ce que la décision finirait par sortir. Ce qu'on a fini par apprendre au service de l'aménagement du territoire à la fin, c'est fin juin, début juillet, c'est que la décision ne sort pas après 30 jours puisqu'il s'agit d'une demande à portée collective. Donc, de notre côté, on a été comme mal informé de la part de la CPTAQ à cet effet-là. Et dans la lettre avant le projet de résolution, ça explique que pour pouvoir aller plus loin et rendre la décision de la part de la CPTAQ, les demandeurs doivent émettre un avis favorable par rapport à l'orientation préliminaire qui a été délivrée à la fin avril. Donc, ce soir, ce qu'on vous demanderait comme projet de résolution, c'est de passer une résolution pour simplement dire que la MRC de Bellechasse est favorable à l'avis préliminaire qui a été émis à la fin avril dernier.
Ça, c'est en vertu de l'article 59, ça?
Exact. Oui.
Donc, c'est okay. Une résolution. Donc on a une résolution à passer.
Christian propose.
Luc et Christian. Tu nous as dit que tu avais une autre résolution, Louis?
On en a deux autres à passer.
Donc, vas-y pour la deuxième.
7.3, c'est pour l'attestation de conformité au schéma d'aménagement relativement aux exclusions de la zone agricole pour les 5 municipalités dont il y a eu des agrandissements de périmètre d'urbanisation. En fait, il y en a eu pour 4. Vous comprendrez qu'à Saint-Lazare de Bellechasse, les espaces vacants doivent être remplis avant qu'il y ait une nouvelle demande, mais la MRC doit attester de la conformité de l'exclusion qui a été, des 5 exclusions qui ont été émises pour les agrandissements de périmètre d'urbanisation à la CPTAQ. Donc, c'est pour les municipalités de la Durantaie, Saint-Anselme, Saint-Clair, Saint-Gervais et Saint-Lazare.
Manon propose.
Yvon Lapuie.
Faut laisser Saint-Lazare-là quand même, Louis?
Oui, il faut laisser le Saint-Lazare-là quand même parce que, dans le fond, il faut attester seulement de la conformité au schéma d'aménagement par rapport à l'exclusion de la zone agricole et non okay. Par rapport à l'agrandissement du périmètre urbain.
C'est beau, ça répond.
Enfin, en 7.4,
Qui a proposé, là, semble-t-il, qu'on ne l'a pas pris par écrit? Qui avait proposé puis secondé?
Manon.
Manon et Germain, c'est bon.
Enfin, au point 7.4, on a la nomination des conciliateurs arbitres. Donc, comme vous le savez, Jannick Godreau est présentement en congé de maternité et c'est elle qui avait été nommée pour traiter tous les dossiers de, comme on appelle, les chicanes de clôture. On n'avait personne à la MRC pour pouvoir traiter ces dossiers-là pour l'instant. Et puis, on a justement un dossier qui a refait surface par rapport à ça dans une municipalité. Donc, on avait besoin de personnes pour pouvoir être habilité à pouvoir appliquer et à jouer le rôle de conciliateur arbitre au sein de l'inspection régionale du service. Donc,
ça va être Marie-Lou Asselin?
Ça va être Marie-Lou Asselin et M. Francis Rioux également.
Francis
Rioux. Alors, je propose Denise.
Denise propose. Gilles Breton, seconde. Alors, merci Louis.
Merci. Bonne soirée.
On passe au point 8, matière résiduelle, 8.1, dévoilement de la stratégie de valorisation de la matière organique. Alors, c'est un dépôt surtout, une courte explication. Vas-y, David.
Oui, merci Clément. Donc, rebonsoir tout le monde. Vous m'entendez bien encore à ce niveau-ci?
Oui.
Donc, vous avez dans vos documents... le communiqué publié par Recyc Québec au niveau du dévoilement de la stratégie de la valorisation de la matière organique, donc l'espèce de document du ministère de l'Environnement qui encadre toute la stratégie en lien avec la gestion de la matière organique là, qui nous est demandé en lien avec ce qu'on appelle la politique québécoise de gestion de matière résiduelle. Le communiqué est un bon résumé des principales mesures comprises dans cette stratégie-là. Il reste encore des zones grises. Vous avez aussi un tableau d'échéancier, donc des principales mesures qui est joint là, pour vous permettre de voir dans quelle mesure puis dans quel ordre les principaux éléments vont être déployés au cours des prochaines cinq années, si on peut dire, jusqu'en 2025. Et on a un projet de résolution qui est attaché à tout ça, dans le fond, essentiellement, qui demande... une rencontre, entre autres choses, et qui demande de certaines clarifications, puisque, comme vous le savez, on est déjà, nous, en train d'analyser, du point de vue de la MRC de Bellechasse et de son territoire, la meilleure stratégie là, parmi les 5-6 qu'on a identifiées, si on comprend le statu quo, pour les prochaines années. Donc, on considère que cette stratégie-là, elle sort à un moment quand même qui est crucial. Et qu'elle va avoir un impact sur les leviers financiers, entre autres choses, qui sont compris dedans, à savoir s'ils financent les stratégies. Puis, dans le fond, est-ce qu'on doit s'en tenir à une collecte de matière organique, donc une troisième voie de collecte pour l'ensemble du Québec, y compris les territoires ruraux, alors que le président de la FQM, lui, semblait dire que la stratégie, elle était modulable là, en fonction des réalités rurales et régionales. Donc, vous avez vu le projet de résolution. Je ne sais pas s'il y a des questions, des commentaires là-dessus.
Donc, on irait avec une proposition pour demander que ce soit certaines précisions soient apportées et clarifiées assez rapidement, en plus de tout ça.
Je propose, Sarteau.
Sarteau propose.
Donc, David.
David? Parlez fort, c'est beau. 8.2, compacteur à déchets, avis de motion, règlement d'emprunt. On a fait la discussion en séance de travail. Alors, on serait rendu à donner avis de motion, si vous êtes d'accord, sur un règlement d'emprunt.
Je peux donner l'avis de motion, moi.
Gilles donne avis de motion. Donc, la décision finale, vous le savez, ce sera lors de l'adoption du règlement d'emprunt qui fera foi de tout.
Le préfet.
Il y a le projet de règlement qui est déposé, bien entendu, avec l'avis de motion. Là. Ça prend une résolution pour le projet de règlement. Qui propose le projet de règlement?
Je propose Yvon.
Yvon?
Yves Turgeon.
Yves Turgeon, seconde.
Monsieur le préfet.
Oui.
Par souci de transparence, on est enregistré. On peut utiliser les montants?
Oui. Alors, donc, c'est un règlement d'emprunt nous autorisant à dépenser une somme n'excédant pas 668 943. C'est beau?
Oui. Est-ce qu'on peut... compris? Est-ce qu'on vote sur cette résolution-là, M. le préfet?
Non, c'est juste un projet, Luc. Ça va être lors de l'adoption du règlement que là, on va voter.
Merci.
C'est beau. Presse broyeur à déchets, projet pilote. David?
Bon, bien, donc, ça fait partie des documents, là, que, encore une fois, que vous avez eu, et ça fait suite, dans le fond, là, c'est la suite logique un peu, là, de l'analyse qu'on fait en lien avec le compacteur à déchets versus la presse. Dans le fond, là, ce qu'on vous mentionne, c'est qu'il y a une troisième possibilité qui est à évaluer dans cette analyse-là. C'est un peu dans la même famille que les presses à déchets. Vous avez vu les documents à l'envoi. Je ne sais pas s'il y en a qui ont pris le temps de regarder la petite vidéo de présentation de cet équipement-là. C'est une vidéo qui dure une minute. Est-ce qu'il y en a qui voudraient que je l'affiche à l'écran pour le bénéfice de tout le monde ou non?
Oui.
Oui.
OK, donc je vais partager l'écran. C'est une minute, donc ça ne sera pas long. Je vais juste m'assurer que... Attendez un petit instant. Excusez-moi, on recommence. Okay, fait que vous voyez la vidéo à l'écran?
Non. Oui.
Oui.
OK, c'est une minute, c'est parti. Donc, on voit des opérations de site d'enfouissement classique, puis là, le compacteur, lui, dans le fond, qui est une presse assortie d'un broyeur. On va le voir en action. Je peux prendre tous les types de déchets, y compris le métal, les clôtures et tout ça. Et puis, il va le broyer en particules assez uniformes. Il va être capable de nous faire des ballots, dans le fond, sous forme de plastique, ben, un peu comme des balles rondes, finalement. Là.
J'en veux un.
J'en veux un. Vas-y, David, avec quel projet que tu nous soumets?
Donc, le projet, finalement, donc ça, c'est un équipement qui est fabriqué par la compagnie Girotrac, qui est basée pas loin d'ici, dans les Aix-Chemins à Sainte-Justine. Il est distribué par une entreprise qui s'appelle Recyclage Angava. Ils nous ont fait une proposition parce que, dans le fond, eux, ils ont cet équipement-là qui considère qu'il offre une très bonne compaction puis une certaine versatilité, hein, parce qu'on a vu qu'il peut broyer certains résidus, donc peut-être même nous permettre de broyer des résidus de construction qu'on envoie pour du recyclage. On a fait une petite analyse sommaire suite à la recommandation du comité de gestion de matières résiduelles et un test de cette ampleur-là. Donc, on parle sur à peu près 1000 tonnes de déchets qui seraient faits vers la fin de l'été, peut-être début de l'automne, là, sur deux semaines de déchets, là, sur une période de trois semaines au total. Ça ne nécessiterait pas d'autorisation environnementale puisque c'est un projet pilote de démonstration technologique. Et en utilisant cette machine-là pendant qu'on est dans notre cellule d'ouverture de cellules, en ce moment, bien, ça permettrait de limiter l'utilisation des compacteurs à déchets qu'on utilise normalement. Donc, il y a une économie là, on enlève de la pression sur nos machines qui sont en fin de vie. Et en même temps, ça nous permet d'obtenir des informations précieuses. Je vais vous reprendre l'écran deux petites secondes juste pour vous montrer le tableau de budget, dans le fond, là, qu'on a estimé pour le projet que vous avez dans vos documents. Essentiellement, là, Recyclage Angava fournissent la machine et l'opérateur, ainsi que, la formation qui pourrait être associée là, avec cet équipement-là de façon, dans le fond, pro bono, là, comme on dit. Donc, ils fournissent à la valeur que ça pourrait avoir de 52 000. Nous, en contrepartie, on met les fournitures, donc incluant le diesel puis les plastiques pour emballer les déchets, ainsi qu'on doit rajouter une deuxième machine pour alimenter le compacteur, parce que dans le fond, nous, ça va mettre trop de pression sur nos équipements qu'on a actuellement. Et on a fait le petit mandat d'analyse de conformité environnementale, puis il y aura un mandat d'analyse de performance. Le mandat d'analyse de performance, essentiellement, c'est le gros morceau de notre contribution. Puis ce qu'on vise à faire avec ce mandat-là, dans le fond, c'est de prendre les données qu'on aurait obtenues avec ce projet-là pour les mettre dans notre analyse comparative au niveau des actifs de compaction pour être capable d'arriver avec... Puis on intégrerait aussi le travail qui était à faire sur la presse à déchets. Donc, on serait capable de faire une analyse basée sur ces trois possibilités-là, puis d'arriver vers la fin de l'automne, à peu près en même temps que notre conclusion de la gestion de la matière organique, pour être capable de mettre les deux analyses ensemble, un peu comme on a parlé en séance de travail. Je vous prie de noter aussi que, malgré que c'est une économie potentielle, on l'a mis là, parce que dans le fond, si on avait besoin de louer un équipement pendant le temps que on a notre autre machine qui serait à la réparation, bien, on aurait une économie d'avoir cette machine-là, peut-être de l'ordre de 15 à 30 000 $ dépendamment comment on veut l'évaluer, là, compte tenu que dans ce cas-ci, c'est une machine neuve et non pas une machine de remplacement. Donc, ça reste que c'est un estimé, mais ça nous donne aussi une idée qu'il y a une économie potentielle de coût qui pourrait être rattachée à la réalisation de ce projet-là dans le délai là, qu'on parle. Donc, pour finir, ce délai-là, comme je vous dis, ce projet-là devra être réalisé à partir du moment où on a l'avis du ministère qui confirme que ce n'est pas assujetti à une demande d'autorisation environnementale. Ça devra être fait avant le gel, puisque ça va se faire en conditions extérieures. Et ça devra se faire après le moment où on ferme la cellule qui est en exploitation pour les travaux, là, donc quelque part vers la mi-août, là. Et c'est recommandé par le CGMR également lors de la rencontre du 10 juin du CGMR dont vous avez le PV. Et il est anticipé que si on pouvait compacter jusqu'à 1000 tonnes, parce que ce n'est pas une garantie qu'on va être capable de traiter le tonnage qu'on cible, mais si on était capable de le faire, à ce moment-là, bien, il y aura probablement un gain de compaction réel dès la réalisation du test dans le fond de cette cellule-là. Donc ça pourrait être intéressant aussi. Là. Je ne sais pas s'il y a des questions.
Petite question, David. Quand tu dis le moment où ça va se réaliser, est-ce que ça va se réaliser aussi quand notre machine va être partie pour la rénovation, là, la remise à neuf? Parce que tu parles d'une économie potentielle de location de machine. Il faut que ça se réalise, il faut coordonner ça.
Exactement.
Parce qu'on n'a pas l'économie. Là.
Pardon?
Est-ce que tu nous confirmes que ça va pouvoir, dans le fond, cette machine-là arriverait sur le terrain quand notre compacteur sera parti pour la rénovation, là,
c'est ça,
la grande rénovation?
Exact. On a une fenêtre d'opportunité là, qu'on saisirait pour une partie du moment où la machine serait partie. Et comme je vous dis, c'est des économies potentielles. Donc, si on est capable d'être dans cette fenêtre-là, il y aurait possiblement, on n'aurait pas besoin d'avoir une deuxième machine à ce moment-là. Là.
D'autres questions?
Pour les semaines qu'on fait ça. D'autres questions?
Oui, Martin Lacasse.
Ça fait des balles rondes. Des balles rondes, autrement dit? Ils vont être empilés l'une sur l'autre?
Oui, on va évaluer la meilleure façon de les empiler, effectivement, oui.
OK. Parce que le trou qu'il va y avoir entre les balles rondes, il va se remplir comment? Il va rester vide?
Bien, si on fait des balles, là, j'ai de la misère à faire la démonstration, mais si vous voyez le vidéo, ça fait comme deux cylindres. Puis quand on va faire le deuxième étage, ils vont venir s'intercaler les unes dans les autres. Fait qu'en théorie, ça serait le vide se remplirait de cette façon-là, oui.
Bien là, regarde, c'est le même principe qu'il y a des balles rondes de foin, comme on dit?
Oui.
Oui.
Bon. Tu prends quatre balles rondes de 4 pieds de diamètre, tu les colles une sur l'autre, là, tu fais comme un carré. Puis le trou, il reste dans le milieu. Regarde la grosseur que j'ai, je rentre dans le trou. Fait que le trou est encore assez énorme.
C'est ça. Mais on va évaluer ça avec la compaction qu'on a avec le compacteur à déchets qui est autour de 800 kg par mètre cube. Puis là, on va prendre une mesure de volumétrie pour voir si concrètement dans le site, parce qu'il faut considérer que oui, vous parlez pour 4 balles, mais moi, j'ai 15 mètres de déchets. Là. Fait que oui. Ça va finir
sur un
trou à un moment donné.
Tu as toujours ton trou pareil. Là.
Le trou reste là.
Oui, mais il va se compacter. Là.
Non, regarde. Comment on mettra des balles de foin, tu en mettras 10 de haut, le trou va rester là pareil. Là.
Ça, c'est là, dans le fond, Je veux dire, ce volet-là, nous, c'est les mesures qu'on va prendre qui vont nous démontrer si ça compacte plus ou moins que ce qu'on a actuellement ou que la presse. Fait que, c'est sûr que si ce trou-là, il vient qu'il ne se tasse pas à un moment donné et que ça ne prend pas sa place, bien évidemment, ça ne performera peut-être pas aussi bien qu'une presse. Là. Donc, on va écarter les. Je veux dire, si la compaction n'est pas là, on va l'écarter, mais on va le mesurer. À ce moment-ci, on n'était pas dans une mesure d'être capable d'avoir des données pour départager ces technologies-là. Puis compte tenu que c'est quand même fait dans une entreprise qui n'est pas loin d'ici, on a cru bon de l'évaluer avant d'aller trop loin dans l'analyse des deux autres stratégies. Là.
Question, Éric?
Oui. Est-ce que je comprends ce que tu demandes une résolution, David, ce soir pour le test, alors que les maires ne se sont pas prononcés concernant la question du compacteur? Là, je veux dire... J'aurais c'est peut-être aimé ça. C'est, ben là, tu dis qu'il y a une économie à quelque part, là, si effectivement on l'utilise pendant que le tracteur, le compacteur, plutôt, s'en va à la restauration. Là. On aurait pu en parler avant. Là. En tout cas, moi, je pense qu'on aurait pu parler des deux dossiers aussi. Là. Mais est-ce que. Puis là, je reprends ce que Martin a dit, c'est que je pense que c'est dans le sens que tu mets les balles rondes là, qui fait la différence. Là. Ce que je comprends, Martin, c'est que les balles rondes, tu les mets dans un sens, puis toi, David, tu les mets dans l'autre sens. Parce que je suis d'accord avec Martin là, que ouais, un trou pour la compaction, là, je ne suis pas ingénieur, puis je ne connais pas les balles rondes, là, mais il me semble que ça fait un gros bon sens. Là.
Exact. Mais là, peut-être qu'on ne se comprend pas, effectivement.
Effectivement. Là. Je pense qu'on ne se comprend pas. Là.
Le point, c'est que de faire ce test-là puis d'obtenir des mesures pour nous aider à déterminer si oui ou non, c'est mieux que ce qu'on fait. Là.
Autre question? Est-ce qu'on a, une orientation à prendre? Moi, il y avait juste une interrogation. Par rapport, il y a un montant de 10 000 $ pour faire une étude. Sachant que c'est un fournisseur qui tente de démontrer l'efficacité de sa machine. Or, il n'y aura pas moyen que lui participe. Moi, si je veux vendre une machine dans le futur puis que je veux faire des démonstrations, j'ai peut-être avantage d'avoir une étude qui vient démontrer l'efficacité de mon produit. Or, que là, c'est nous qui supportons les coûts de l'étude. Le reste, moi, je n'ai pas de problème. Mais ça me chicote un petit peu. David?
Vous avez un bon point là-dessus. Moi, il y a deux choses que je vois. La première, c'est qu'on avait déjà prévu un certain montant pour analyser la presse et le compacteur classique. Puis là, bien, c'est sûr que là, nous, ce test-là, le distributeur, il nous fournit la machine aucune location, rien. Donc, il y a comme un investissement là, qu'on a évalué à 70% de l'ensemble des coûts de ce projet-là. Puis, on veut se garder une certaine forme d'indépendance par rapport au fait que c'est sûr que si lui paye son consultant puis qu'il nous dit que c'est bon, alors que j'ai déjà deux personnes à la table du conseil qui me disent qu'il y a déjà des bémols à regarder, bien, nous, on veut être capable de regarder ça puis de l'évaluer de façon indépendante. Donc, c'est sûr que lui, après, s'il veut utiliser ce rapport-là pour vendre son compacteur, il va falloir qu'il nous demande la permission là, dans un sens parce que ça va être nous qui va l'avoir demandé puis on va être maître de nos données. T'sais, je veux dire, c'est sûr que ça reste que c'est un partenariat, mais quand même, ce volet-là, je pense qu'il est quand même important vu que, comme vous dites, il veut vendre la machine. Nous, on veut garder un peu les pieds sur terre avec ça aussi puis d'être capable de l'évaluer pragmatiquement. Là.
Monsieur le préfet?
Oui, Martin?
Honnêtement, on l'a regardé au niveau du CGMR aussi, puis c'est sûr que le volet indépendant face à ce fournisseur-là qui veut nous vendre absolument une machine, on trouvait que l'opportunité était belle de pouvoir le tester, même si on investit quand même 10 000 $ mais c'est une technologie qu'on entend parler qui pourrait peut-être se faire ailleurs. Puis, c'est pour ça que vis-à-vis la presse, comme Martin dit, au niveau de l'espace, c'est toutes des choses qu'on va pouvoir voir, mais au moins, on va avoir l'esprit clair quand on va faire les tests avec ça. Puis après ça, on va aller voir les gens qui travaillent avec la grande presse à balle rectangulaire.
Germain.
Pour compléter un peu ce que Martin dit, là, on va avoir des décisions à prendre, là. Compacteur, presse en L, il faut avoir des données. Là. C'est... 10 000 $ oui, c'est de l'argent, mais c'est peut-être pas cher à payer pour ne pas se tromper. Là.
Mais est-ce qu'on pourrait se dire, messieurs, que dans le fond, oui, on se réserve un montant, mais si on voit, comme l'explication que nous a donnée Martin, qu'au niveau, on peut faire un petit calcul rapide de dire que c'est peut-être pas le meilleur équipement, est-ce qu'on est obligé de se payer automatiquement une appréciation de 10 000 $ de le mettre dans le coup? Moi, je n'ai pas de problème. Mais avant d'investir 10 000, tu sais, quand tu vas voir un auto et tu dis ça ne fait pas l'affaire, ben tu t'arrêtes ça là. Là.
C'est la même chose
comme la presse en elle. Il y a de la littérature qui vient nous démontrer, de dire voici, puis on aura des décisions à prendre. Mais en tout cas, moi, j'ai fait part de mes commentaires.
Pour l'étude, c'est sûr qu'on verra. Là, juste avoir l'avoir marché de la presse, on va voir un peu tout de suite si on continue ou pas. Là.
D'avoir marché, tu vois. Ouais, puis c'est notre capacité d'enfouissement. Là. On enfouit quel tonnage par rapport à une méthode traditionnelle. Là. Si on n'y gagne pas, puis que la perte d'espace que nous a parlé Martin, on ne la couvre pas, ben, on a pas besoin peut-être de faire une étude de 10 000 $
Ben, honnêtement, monsieur le préfet, ce qu'on a entendu des gens qui ont fait les tests avec ce système-là qui fait des balles rondes, les résultats seraient supérieurs à la capacité de la presse. C'est pour ça qu'on s'est dit qu'il faut absolument avoir. Il va rester, comme Martin dit, au niveau d'entreposage. C'est beau de faire une balle qui est compressée beaucoup, mais si on n'est pas capable dans l'espace de sauver, ça ne sert pas à grand-chose, je suis d'accord. Mais les commentaires qu'on a reçus, puis c'est pour ça qu'on voulait l'essayer, c'est apparemment que ça ferait un travail qui serait encore supérieur à la presse à balle rectangulaire.
Mais moi, je veux bien être clair, là, c'est pas parce que je suis contre le projet, mais on peut-tu lui faire une petite étape et de dire que si on s'aperçoit que, dans le fond, les résultats sont pas ceux qu'on nous annonce, ben il y aura peut-être une décision.
Mais si je peux me permettre, juste pour clarifier ce point-là, dans le fond, eux, ils se magasinent, ils essayent de se trouver un site pour faire le test. Donc, nous, on considérait que c'était avantageux de faire le test chez nous, justement parce que dans un premier temps, on va être capable de voir la machine fonctionner en action sur une période prolongée, parce qu'on a déjà, vu cette machine-là fonctionner sous mode prototype l'année dernière. Et là, on veut vraiment s'assurer qu'elle est capable de prendre les déchets sur une période, tu sais, d'usure normale sur 2 semaines. Et c'est sûr que si nous, comme dit M. Lacasse, on est capable de visualiser que ça ne livre pas la marchandise, que la capacité n'est pas là, qu'elle n'est pas capable de charger les camions ou toute autre chose, évidemment, on ne mettra pas le 10 000 $ Lui, il vient après. Il vient vraiment après. Donc, c'est en deux temps, mais il est prévu au budget. Puis, on considère qu'on a un gros avantage d'avoir ce test-là avec nos employés, avec. C'est pour ça qu'il y a un peu de formation aussi, pour que nos gars soient capables de vraiment la manœuvrer quand elle va être chez nous. De cette façon-là, on va avoir un... C'est comme vous dites, quand on magasine l'auto, on va essayer l'auto avant de la mettre là, dans... Fait que c'est pour ça qu'on jugeait que c'était intéressant d'en mettre un petit peu nous autres aussi, éventuellement, pour avoir
nous. Là. Il y a une question d'Éric.
Oui, là, il me semble qu'on tourne un peu en rond. Là, là la résolution, là, est-ce que tu demandes... là l'étude ou tu n'amendes pas, là. Tu sais, je comprends ce que tu veux, mais dans ton montant que tu demandes dans la résolution, là, est-ce que ça inclut ou pas l'étude, oui ou non?
Ben oui.
Alors, là, je reviens avec ce que Clément a dit en deux étapes. Si on adopte la résolution telle qu'elle, ben il n'y a pas de deux étapes, là. Alors, si on veut deux étapes, il faut le préciser dans la résolution. Puis le point que moi, je veux apporter, c'est que toi, tu dis, écoute, moi, là, je veux faire le test pour avoir mes données à moi. OK, correct. Mais je ne vois pas dans la résolution quoi que ce soit qui dit que tu vas garder les données juste pour toi et tu ne fourniras pas ça à l'entreprise. Moi, je n'accepterai pas une résolution où est-ce qu'on fait le travail du vendeur puis qu'on va lui donner la résultante. Là, je m'excuse, mais je vais accepter la résolution uniquement si tu dis que tu vas garder les résultats que pour toi.
Non, mais tu comprends, là. Oui, je comprends très bien, mais je n'ai pas dit qu'on gardait les résultats juste pour nous. C'est sûr que cette entreprise-là qui met la machine à notre disposition va pouvoir avoir les données, mais ils ne pourront pas nécessairement...
Je m'excuse, je reviens avec... Non, mais là, ça ne marche pas. Là, on est en train de financer un développeur. Moi, je regrette, je ne peux pas adhérer. Là, si le gars veut qu'on achète la machine à quelque part, il va falloir qu'il mette du cash à la table. Là, finalement, on le subventionne. Ben moi, je m'excuse, je vais subventionner d'autres mondes. Je n'ai rien contre la vertu et le projet. Mais là, on est en train de mettre de l'argent alors que c'est lui qui devrait le mettre pour faire les résultats. Je n'ai rien contre le principe, je te le dis, là. Je veux avoir une expertise indépendante. C'est fine avec moi. Mais je vais garder les résultats pour moi. Je n'irai pas faire sa job à lui, là. Tu sais, je veux dire, ça a l'air cocu, là, mais je veux dire...
Non, c'est correct, M. Tessier. Moi, je n'ai pas dit, je veux juste être clair, moi, je n'ai pas dit qu'on ne lui donnait pas les résultats. J'ai dit que lui ne pouvait pas les utiliser pour faire sa promotion puisque c'est nous qui les payait. Mais c'est
non, mais
que
il peut les utiliser pour d'autres choses.
C'est sûr qu'il va les voir. C'est un projet qu'on faisait ensemble. Maintenant, si vous voulez qu'on change la résolution, je n'ai pas de problème non plus, mais ce n'est pas l'entente que... Ce n'est pas l'entente qu'on a négocié avec ce fournisseur-là pour l'instant. Puis je comprends vos réserves, là. Il n'y a pas de problème. Là.
Autre commentaire?
J'ai une question.
Oui, Christian.
C'est évalué à combien la fourniture de la machine là, pour 2 semaines? C'est ça? Tu parlais de 2 semaines?
Oui, c'est 56 000 $.
C'est ça qui est évalué. C'est la contribution. De l'entreprise, là, que je comprends. Là.
Exact, exact.
Et ça, c'est eux autres qui l'ont fourni, cette évaluation-là?
Oui, évidemment, bien sûr. Ouais.
Autre commentaire avant de prendre une orientation? Martin Lacasse?
Moi, je suis complètement d'accord avec Eric. Hein. Une compagnie qui va faire des tests, là, moi, je calcule qu'on n'a pas d'affaires à payer. Regarde. C'est un projet qu'il y a. Fait que c'est à lui de le rendre. Regarde, moi, je comprends le 10 000, puis moi, il regarde, ce sera pas question.
Autre commentaire?
Ben, moi, je ne suis pas Denise, d'accord. Là. Moi, je suis pas d'accord.
C'est ça, on passera au vote tantôt. Il y a Denise qui a demandé la parole.
Ben, c'est pas. J'ai de la misère un petit peu à suivre les chiffres, là. Monsieur. David Laurent-Jeking parle d'une contribution de l'entreprise de 56 000, moi j'en veux 52 861. Puis la MRC, c'est pas 10 000, ça vaut plutôt au total, c'est 23 000. Je me trompe-tu, là?
Non, non, vous avez raison pour le.
Le mandat d'analyse coûte 10 000, mais on a d'autres choses à payer. On a 13 000 de plus à payer. Le tableau, c'est pas moins, là.
Est-ce que tout le monde, on voit le même tableau ici à l'écran?
Oui. 56 000 dont vous parliez, là, il y a une partie qui appartient à
MRC. Vous avez raison, j'ai pris le mauvais chiffre, c'est 52 800.
52 000. De l'entreprise.
Voilà, c'est pas 56 000.
Là. Non, j'ai pris le mauvais chiffre, vous avez raison.
Gardez le total de la MRC versus Omgawa.
Le total de la MRC, c'est, comme vous l'avez dit, c'est 23 000 $, incluant le 10 000 dont
voilà,
on parle.
Pour l'analyse. C'est oui. Ça, c'est parce que je me perdais dans vos chiffres. C'est pour ça que je voulais poser la question. C'est clair. On a le tableau. C'est bon. Merci.
Est-ce que c'est plus clair? D'autres questions pour les chiffres?
Oui, peut-être une. Ton 2000, qui est le mandat d'analyse conformité environnementale, c'est-tu le CA?
C'est la démarche qu'on a faite pour déterminer si on avait besoin d'un CA ou pas. Puis là, dans le fond, l'expert en conformité environnementale qui s'appelle Sanexen qui a fait ça, c'est un mandat qu'on a déjà fait. Là. Oui.
J'ai une question. Le mandat d'analyse de performance, il est réalisé par qui?
Pour l'instant, c'est un projet. On commençait par déterminer si le conseil était d'accord pour qu'on aille avec le projet. Puis là, on va se trouver un consultant pour faire ce bout-là qui n'est pas encore engagé.
Parce que ça prend quelqu'un d'indépendant, là.
Ça prend c'est ce qu'on pensait, c'est ce qu'on trouvait, c'est que ça prenait quelqu'un d'indépendant. Puis, tu sais, on avait des heures avec notre mandat de matière organique en banque d'heures d'accompagnement. Sinon, on a des consultants qu'on connaît qui pourraient faire ce travail-là. Donc, oui, c'est sûr que nous, on voulait avoir le choix de ce consultant-là parce qu'il faut que je ne vous cacherai pas qu'eux, ils pourraient aussi nous dire, bien, on va vous en mettre un consultant puis il va nous donner les chiffres qu'on va mesurer puis là, on va avoir un enjeu. Là.
Ouais. C'est pour ça que moi, je suis d'accord que ça ne peut pas être complètement aux frais de l'entreprise parce que nous, on a besoin, si on veut que les résultats de l'étude, on soit en mesure, que ce soit des résultats crédibles, que ce ne soit pas juste... une évaluation qui est faite par l'entreprise, moi, je pense qu'il faut mettre un peu d'argent là-dedans. Sinon, je veux dire, l'entreprise peut faire ses études, puis ça va être quoi la crédibilité de ça, là? Moi, je pense qu'il faut en mettre un peu d'argent pour aller chercher une étude, pour aller chercher une expertise externe pour être en mesure de valider les résultats. Sinon, pour moi, ça ne vaut rien.
Au pire aller, on peut-tu aller à 50-50, 5000 l'un, 5000 l'autre pour réduire ce problème-là? Là?
J'aimerais pas. C'est pas qui que.
De toute façon, on va avoir à se prononcer en faveur, mais peut-être une sous-question qui se prépare, c'est de dire que là, on regarde une technologie qui est une presse. Quand on va arriver, parce que là, on sait qu'on a un choix qui est une presse en L, qui est une technologie qui est un peu plus, en tout cas, qui est un peu plus connue.
Alors,
à ce niveau-là, est-ce que ça va nous prendre aussi une étude d'évaluation des rendements de la presse en L ou si on va se fier sur, dans le fond, là, la description qu'on nous en fait puis les données qui sont disponibles par rapport à cette presse-là?
Une très bonne question. Moi, je veux dire, il y a un bout qu'on va analyser les données actuellement disponibles, mais moi, je... C'est pour ça que quand on regardait le délai de 3 ans dans la présentation du huis clos, moi, je pense que quand on va être rendu proche de la décision, il va falloir qu'on aille chercher une assurance. On ne pourra pas juste prendre les chiffres de Machinex, dans le cas de, pour ne pas nommer le fabricant de la presse, puis même la régie Quatico, qu'eux autres, peut-être qu'ils ont un contexte qui fait que la forme de leur site ou différentes choses font qu'ils arrivent avec une certaine performance que nous, peut-être qu'on ne sera pas capable d'avoir. C'est pour ça qu'on considérait...
Et la différence entre les deux, David, c'est qu'une presse en L, il y en a d'installer, tu as des spécifications connues, puis tu connais les résultats, tu peux aller vérifier dans des entreprises si les résultats sont là. Là, ce que tu nous demandes, c'est d'être précurseur puis d'aller évaluer une nouvelle technologie. Et là, la question sur laquelle on ne s'entend pas, est-ce que c'est à nous à faire le travail normalement? S'il veut vendre sa presse dans le futur, va falloir, s'il ne le fait pas chez nous, va falloir qu'il le fasse ailleurs puis arriver avec des specs qui peuvent être vérifiables. Or là, on fait les frais de ça avant de savoir. C'est un petit peu ça, moi, qui m'interroge. Là.
Moi, oui, Manon? Ben, écoutez, là, moi, je vois le débat. Là. Ce que je constate, là, j'essaye de me démêler dans tout ça, mais ce que je constate, c'est qu'on a encore besoin d'en discuter. On est en sciences publiques. Je pense que tout ça, ces discussions-là, on aurait avantage à les faire. Je pense que le dossier, il est comme pas mûr, et je ne veux pas attaquer personne en disant ça, mais on se rend compte qu'on a besoin d'approfondir le sujet. Alors, M. le préfet, y a-t-il possibilité de reporter ce point-là pour qu'on puisse vider la question ensemble une fois pour toutes? Parce que là, je trouve que ça s'étire, puis c'est comme des symptômes que le dossier, il est pas mûr.
Oui. Ce que je comprenais, par contre, puis ça, il ne faut pas l'oublier, c'est qu'on nous l'amenait aussi comme une solution un petit peu temporaire durant l'absence de notre compacteur. Il ne faut pas l'oublier.
On a comme une fenêtre d'opportunité avant le gel. C'est ça qui...
C'est ça. Si on ne fait pas ça là, ça veut dire qu'on le reporte. Puis si on prend cette décision-là dans le futur, si ce n'était pas là, je vous avoue que moi, j'aurais tendance à dire, on demande à l'entrepreneur, bien nous, on va avoir le choix de différentes technologies. Si tu veux nous faire la preuve, étant donné que ta technologie est tellement récente, c'est à toi de nous faire la preuve du rendement de ta technologie. Or là, par contre, tu l'amènes dans une fenêtre d'opportunité qui avait un certain intérêt, mais on y gagne. C'est quoi? Comment évaluer le gain qu'on y peut y faire? Moi, ce que j'ai retenu, c'est de dire que si pendant 2 semaines, parce que c'est à toutes les 15 jours, mettons qu'aux 2 semaines, la location d'un compacteur est à peu près le prix du projet que tu nous emmènes. C'est ça ou c'est pas ça?
C'est exactement ça.
Alors, on a fait le tour. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Sinon, on va y arriver avec un dépôt de résolution et si elle est proposée et secondée, il y aura probablement vote sur la résolution parce qu'on pourra en parler longtemps. Mais là, je pense que Manon l'a souligné, on en est rendu à prendre une orientation, une décision quant à la proposition qui nous est faite. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose la résolution qui nous a été déposée?
Germain
propose. Yves Turgeon.
Germain.
Non, Yves.
Yves. Et qui seconde?
Germain.
Germain seconde.
Le vote est
est-ce que quelqu'un demande le vote sur la proposition? Éric demande le vote. Alors, pour être sûr qu'on vote, là, mettez vos petits. Vous avez une place que vous pouvez mettre une petite main, là. Puis là, je vais demander à Nick de me suivre. Alors, si vous votez pour la proposition, vous levez, vous allez dans la petite fenêtre qui est réaction, c'est ça? Vous avez une petite réaction plus, vous pesez là-dessus, puis il va y avoir une petite main, nous, qui va apparaître à l'écran, et après ça, on vous dira qui a voté. Donc, j'ai Germain Adap.
Je veux juste être sûr, M. Filion, là, on doit voter sur le fameux essai de la presse Balleronde, là, c'est ça?
La résolution telle que déposée. Si on veut l'amender, si on veut l'amender après ou arriver avec une autre proposition, bon, on pourra le faire. Tantôt, on a parlé de faire des étapes, de mettre dans la résolution, de préciser certaines étapes. Ben là, on pourra peut-être revenir avec une proposition dans ce sens-là. Oui, donc, relevez la main, là, ceux qui veulent le faire, là, parce que j'en ai vu seulement que deux.
Moi, je vais le faire à la main, là, parce que je ne trouve pas le piton.
C'est le petit piton en bas, complètement à droite, pratiquement, là, puis c'est marqué « réaction ».
Okay, j'ai le problème, moi aussi, là, donc je lève
ma main. Prends-le, tu as le droit de...
Annick va vous dire les mains qu'on voit.
Clément, vu sa main, là. Tu peux-tu à poser ta question, là?
Quelle question? J'en ai plusieurs.
La question que tu as posée, c'est la résolution, là. On accepte la résolution telle que proposée, telle qu'elle, là.
Là, oui, parce qu'il y a eu une proposition qui nous a été déposée. Donc, il y a eu un proposeur puis un secondaire sur cette résolution-là. Puis là, le vote a été demandé. Ça ne nous empêche pas par après, si jamais elle ne passe pas, d'arriver avec une contre-proposition, quelque chose qui est une proposition amendée.
OK.
Donc, sur la proposition telle que déposée. Qui sont pour? Là, on va les prendre, les petites mains. Vas-y, Annick, au fur et à mesure que tu les vois.
Monsieur Sartorois.
Oui.
Monsieur David Christopher. Monsieur Jean-Yves Turmel. Après ça, Monsieur Germain Caron. Monsieur Martin Gicoté. Monsieur Daniel Pouliot. Monsieur Christian Lacasse. Je viens de voir Monsieur Sébastien Bourget. Monsieur Pascal Fournier. Est-ce que j'en oublie?
Oui, parce que j'avais cliqué, mais c'est disparu. Je reviens tout juste de cliquer. Pas...
On ne te voit même pas, puis on ne voit pas ta main non plus.
Il y a moi aussi, Annick.
Qui?
Je l'avais mis, puis il s'efface.
Oui. Yvan Dumont?
Moi aussi, je l'ai mis.
On a, étant donné que c'est une résolution à double majorité, est-ce qu'on a 11? Oui.
Est-ce qu'il y en a d'autres?
Est-ce qu'on en a oublié? Renomme-la donc, pour être sûr.
Monsieur Sartorois, Monsieur David Christopher, Monsieur Jean-Yves Turmel, Monsieur Yvan Dumont, Monsieur Yves Turgeon, Monsieur Sébastien Bourget, Monsieur Germain Caron, Monsieur Martin Gicoté, Monsieur Pascal Fournier, Monsieur Daniel Pouliot puis Monsieur Christian Lacasse.
Mais moi je l'ai mis, mais c'était effacé.
Ben non. Fait que étant donné que c'est dit... Oui.
Moi j'ai Denis. Denis, je suis pour.
Denis est pour.
Oui.
Fait que là on s'en va vers une adoption. Il y a plus que 11 municipalités.
13.
Mais on est sûr d'avoir la population. Saint-Henri. Fait qu'on aurait la double majorité. La résolution est adoptée. Point suivant. Récupération. Presse aboyeur de chaise, c'est beau. Récupération de plastique agricole. Dépôt d'une demande de financement, David?
Oui, très, très succinctement, là, c'est la suite de notre bilan du projet de plastique agricole qu'on a déposé le mois dernier. Dans le fond, Gaël Crête, le chargé de projet en gestion de matières résiduelles, et Marie-Ève Lacasse, là, qui travaillent en collaboration entre le PDZA et notre PGMR sur le projet de récupération, avait comme mandat de trouver des sources de financement pour éventuellement faciliter les débouchés. Hein, parce que vous savez qu'un des gros problèmes de ce projet-là qui fait qu'on ne peut pas aller plus loin ou plus vite avec ce projet-là, c'est les débouchés. Et il y a une option de financement du programme Climat Municipalité qui est chargé de l'environnement, qui permet de financer une étude pour permettre de déterminer le type de plastique qu'on a, s'il pourrait être utilisé dans les recettes des entreprises dans Bellechasse, au niveau de la vallée de la plasturgie. Des entreprises là, comme VersaProfile, par exemple, ou d'autres entreprises IPL et autres. Vous voyez que dans la fiche résumée de projet, là, il y a un montage financier qui est fait pour cette entreprise-là. Pour le projet, là, un projet à 27 368 $ et qui serait financé à 75 % par l'enveloppe de Climat Municipalité, s'il est accepté, et la MRC, avec l'apport de la ressource de DEB, fournirait le 26 % en nature, donc avec les salaires déjà budgétés pour ces chargés de projet-là. Et donc, dans le fond, aujourd'hui, c'est un dépôt de projet, là, puisqu'il y a des fonds qui sont disponibles pour l'année 2020 sur la base de premier arrivé, premier servi. On sait qu'il reste des fonds, donc on déposerait ça selon la résolution qui est là. Je ne sais pas si vous avez des questions.
Sinon, une proposition. Qui sera en faveur de proposer la demande de financement?
Propose Yvon.
Yvon propose.
Luc,
seconde. C'est unanime? Oui. On y va avec récupération du bois, octroi de contrat.
Je pense que je vais vous ramener au partage d'écran peut-être pour vous permettre là, qu'on y aille ensemble. Donnez-moi une seconde. Donc, dans le cadre de nos programmes de récupération, on a un programme de récupération des matériaux de construction, dont en grosse partie le bois de construction, qui fait partie de la matière organique qui doit être récupérée. Et le volet matériaux de construction là, est de plus en plus important. Pour la MRC de Bellechasse, c'est très important parce que vous le savez, dans vos éco-centres municipaux, vous avez dans la plupart des cas maintenant un conteneur pour le bois. Là, ce qui arrive, dans le fond, c'est une instabilité au niveau du marché parce que, dans le fond, notre contrat arrive à échéance, OK? Et puis, le ralentissement économique en lien de la COVID fait en sorte qu'il y a beaucoup de choses qui sont arrêtées, dont l'usine qui est le principal débouché pour le bois qui sert à faire de la production d'énergie, donc l'usine de la papeterie Kruger, qui est situé à Trois-Rivières, qui est un gros, gros repreneur de cette matière-là, ce qui fait que ça engendre une instabilité sur le marché. On ne sait pas pour combien de temps cette usine-là va être fermée et on ne sait pas non plus, là, c'est difficile. En théorie, on irait pour un contrat d'un an, comme on fait d'année en année avec ce projet-là. Par contre, on ne sait pas, les entrepreneurs là, qui récupèrent le bois actuellement nous disent que de voir la situation dans un an, ça va être très, très difficile. Puis c'est possible qu'il y ait même une interruption là, de la récupération. Donc, le marché est très, très instable. Ce qui fait qu'on en est arrivé à la conclusion que pour l'instant, c'était préférable de faire une demande de prix sur 3 mois avec les deux principales entreprises qui sont capables d'avoir des débouchés. Donc, location d'Algie, qui est notre fournisseur actuel, puis une entreprise qui s'appelle AIM Éco-Centre, là, qui est basée à Saint-Augustin, mais qui exploite aussi l'éco-centre à la ville de Lévis, là, proche de l'incinérateur de Lévis, au chemin des îles. On leur a demandé donc une demande de prix structurée de façon à pouvoir séparer les contrats en fonction des matières puis des options qu'on a demandées pour être capable de vraiment toujours s'assurer de payer le prix le moins cher possible. comme vous le voyez sur le tableau que je vous montre à l'instant, dans le fond, on a trois matières, le bois, le bardeau d'asphalte et le gypse, qui sont séparés avec des alternatives de transport et traitement ou juste de traitement. C'est-à-dire que dans certains cas, quand on parle des éco-centres qui sont proches de ces deux centres de tri-là, on peut aller porter nous-mêmes la matière puis sauver le transport. Ce qu'on constate, c'est que, dans le fond, justement, le prix de Dalgy est moins cher lorsqu'il vient chercher la matière Arma et le prix de AIM pour le bois, pour l'option, pour le bois. Et chez AIM, il est moins cher d'à peu près 13 $ la tonne, grosso modo, lorsqu'on va lui porter. Donc, la proposition de la résolution, puis Dalgy est moins cher pour l'ensemble des matériaux autres que le bois, qui sont en très petite quantité, soit dit en passant, là. Ce qui fait qu'on proposerait d'avoir un contrat pour location d'Algie au total de 89 980 sur une base estimative. Puis AIM, un contrat de 23 970 pour le bois qu'on irait porter chez lui. Je ne sais pas s'il y a des questions, des commentaires là-dessus.
Questions ou sinon adoption?
Combien de temps, ça?
3 mois.
3 mois? OK.
Ça veut dire qu'on reviendrait probablement soit sous forme d'appel d'offres ou encore de demande de prix à l'automne, dépendamment de la situation du marché, si elle se replace. Il faut comprendre aussi que le gros du volume, il était dans l'ancien contrat, puis c'était dans la demande de prix, puis ça ralent, à partir de septembre, octobre, ça ralentit. Fait que ça nous donnerait une marge de manœuvre aussi pour voir comment les choses vont. Puis c'est des contrats qui sont saisonniers. Ça, des fois, c'est plus facile d'avoir un meilleur prix pour le bois en hiver, mais la matière arrive plus en été. Fait qu'on on jonglerait avec tout ça. Là.
C'est beau. Je vais le proposer.
Je vais l'appuyer, Christian.
Christian?
Oui.
Acquisition d'une barrière coulissante, octroi de contrat, c'est à l'entrée du site?
C'est à l'entrée du site. Effectivement, notre barrière est là depuis un bon nombre d'années. On a quelques petites problématiques du fait qu'elle n'est pas entièrement automatisée électrique. Donc, la proposition que vous avez à le projet de résolution que vous avez, excusez-moi, au point 8.6, c'est vraiment, là, on a fait 2 demandes de prix pour des propositions qu'on juge qui sont comparables, mais la proposition de l'entreprise Mastergate Plus, qui nous fournit une barrière coulissante avec, c'est ça, système électrique, là, pour 12 245, est plus avantageuse, même si elle est moins chère. Donc, la recommandation du service, là, c'est d'aller de l'avant avec cette acquisition-là qui va être financée par le règlement d'emprunt là, qui a déjà été adopté, les deux règlements d'emprunt finalement qui ont été adoptés en 2019. Donc, ça faisait partie de ce budget-là.
Alors, proposition?
Denis.
Appuyé par?
Sébastien.
On passe au point 9, correspondance, Annick.
Oui, donc, première correspondance qui nous provient de la municipalité de Saint-Gervais en lien avec le service régional d'inspection. Donc, c'est la municipalité qui annonce son retrait au niveau du service régional d'inspection pour l'année 2021. Correspondance numéro 2 qui nous provient de M. Normand Bolduc. Donc, je vous fais grâce des détails, c'est que je vous informe là, des correspondances que je reçois là, de M. Bolduc. Ensuite, correspondance numéro 3, donc c'est une demande d'appui qui nous provient de l'organisme La Remontée qui fait des démarches auprès du ministère de la Santé et des Services sociaux. Dans le fond, l'organisme offre aux personnes là, avec des besoins particuliers là, des services équestres. Donc, c'est de savoir est-ce que vous voulez appuyer cette demande-là ou on fait juste le déposer à titre de correspondance.
On dépose à titre de correspondance. On continue.
Moi, j'offrirais mon appui parce que c'est quand même un organisme que je connais de par mon travail auprès des jeunes à troubles de comportement. Puis c'est un organisme qui, entre autres, intervient ou aide ces jeunes-là par l'équithérapie, mais également avec les jeunes qui souffrent de TSA, d'handicap physique, d'handicap intellectuel. Et puis, honnêtement, là, je ne savais pas le dépôt de cette demande d'appui-là là, jusqu'à ce que je vois les documents. Mais moi j'offre mon appui là, pour cette
demande. Es-tu prêt à le proposer? Oui, Sébastien, propose.
Jean-Yves appuie.
Jean-Yves appuie.
Parfait. Donc, à la correspondance numéro 4, c'est une correspondance qui nous provient du ministère de la Sécurité publique en lien avec notre rapport d'activité pour l'année 2018. Donc, il y a certains, dans le fond, il y a certaines énumérations qui sont faites dans cette correspondance-là. Vous en avez pris connaissance. Ensuite, à la correspondance numéro 5 qui nous provient de la MRC des Aides-Chemins en lien avec le dossier Passion FM pour confirmer, là, dans le fond, c'est la résolution qui confirme leur appui financier au projet là, de 75 000 $. Correspondance numéro 6 qui nous provient d'Investissement Québec en lien avec le regroupement des bureaux régionaux du ministère de l'Économie et de l'Innovation à ceux de Investissement Québec. Donc, vous avez pris connaissance de cette correspondance. Ensuite, correspondance numéro 7 qui nous provient de la municipalité de Saint-Malachie en lien avec qui demande la réouverture du comptoir de service aux clients au centre de service Desjardins de Sainte-Claire. Correspondance numéro 8 qui nous provient de la municipalité de Sainte-Claire qui est en lien avec la même résolution de Saint-Malachie en lien avec la réouverture du comptoir qui demande la réouverture du comptoir du service aux clients du centre Desjardins de Sainte-Claire.
Je ne sais pas si Madame. Excuse-moi, Annick. Je ne sais pas si Mme Dulac est au courant que Sainte-Claire devrait ouvrir le 20.
Lundi, le 20.
Oui, c'est ça.
Oh, oui, je le sais. Ce n'est pas cette correspondance-là. Il y en a été question au dernier Conseil des maires. Il n'y avait aucune demande d'appui de la part de la MRC. Il y a une copie de la résolution qui a été adressée à la MRC à titre d'information. Les appuis à MRC, je n'en demanderai plus jamais. J'ai demandé un une fois, puis j'ai vu comment ça finit. Il n'aura plus de demande d'appui à MRC.
C'est bon, c'est noté.
Correspondance numéro 9 qui nous provient de la municipalité de Sainte-Claire, c'est en lien là, avec le dossier de la route verte. On vous avait demandé si c'était possible dans chacune de vos municipalités respectives d'adopter la même résolution qui avait été adoptée là, par le conseil. Donc, c'est les résolutions qui rentrent là, des municipalités. Même chose à la correspondance numéro 10, là, c'est l'appui là, en lien avec la route verte également.
Excuse-moi, Annick, est-ce qu'il y a encore, est-ce qu'on peut encore déposer ces appuis-là?
Oui. Okay. On avait transmis copie de résolution à vos directeurs généraux, justement pour que vous puissiez les passer dans vos conseils respectifs.
Tu la promets peut-être demain à la réunion des DG?
Oui, je vais le rappeler de toute façon.
S'il vous plaît.
Oui. Annick?
Oui.
Si tu me permets, concernant la route verte, il y a eu toute une nouvelle d'annoncer aujourd'hui au niveau de... Je ne sais pas si tu veux en parler, cher, au niveau de l'infolette de la FQM.
Dans le communiqué infolette de la FQM, donc il y a eu une annonce là, pour dire qu'il va y avoir un appel à projet qui va se terminer début septembre, de ce que j'ai compris. Donc nous, pour l'instant, on n'a pas là, les documents relatifs à tout ça, mais on va suivre l'évolution de notre côté.
Exactement. Ils ont sorti 30 millions, puis sur les 30 millions, il y en aurait 24,4 millions qui iraient pour le développement ou la reconnaissance comme réseau régional des pistes cyclables qui pourraient devenir, exemple, une route verte. Fait que je pense que la porte est là. Puis comme tu disais, Annick, on a jusqu'au 4 septembre 2020 pour embarquer dans la roue avec les autres.
Exact.
Soyez certains qu'on va embarquer.
C'est bon.
Ensuite, correspondance numéro 11, municipalité de Saint-Raphaël. Même chose, là, résolution d'appui avec la route verte. Donc, c'était ma dernière correspondance.
Merci. Entente cours d'eau. Alors, on dépose ce soir l'entente. On en a discuté à notre séance de travail. Donc, je vous rappelle la procédure. Demain, Annick et Dominique vont en discuter avec nos DG pour la passer, pour que votre direction, vos directions comprennent bien l'entente. Et après, vous aurez une décision à prendre. Donc, normalement, à la séance du mois d'août, on vous demanderait de nous donner votre orientation par rapport à cette fameuse entente-là. Oui, il y avait des questions. Denise?
D'abord, ça va être la séance de septembre, sûrement, du Conseil des maires.
On n'a pas... Non, mais là, je te parlais, Denise, de... Les municipalités locales, nous, ça va être en septembre pour, après ça, voir la suite qu'on donne. Mais nous, on doit avoir l'adhésion des municipalités locales, normalement, au mois d'août, chez vous. L'adhésion ou non, bien entendu.
Il y a une chose que je voulais vous demander. Il y a quelques municipalités que le nom du DG a changé. Il faudrait peut-être, je ne sais pas si cette entente-là va faire partie du procès verbal actuellement, mais dans la liste qu'on voit, il y a quelques noms de directeurs généraux ou de directeurs, en tout cas, de directeurs
oui.
ou directrices qui sont erronés.
Donc, on va la modifier en conséquence. On comprenait que pour une première version, c'était le texte qui était important, mais là, les petites corrections dues au nom des personnes qui vont signer, ben, ça va être fait. Ça vous va?
Oui.
Donc, c'est déposé. Vous en discutez à votre prochain conseil du mois d'août. Extension des rôles d'évaluation, Annick. C'est comme à chaque année, on demande toujours les rôles qui sont en confection. Ces rôles-là, cette année, sont Saint-Philémon, Bâtelonne, Armand, Saint-Néré, Saint-Charles, La Durantais et Saint-Vallier, qui soient adoptés au plus tard le 1er novembre, comme le prévoit la loi. Et pour pouvoir se prévaloir de cette mesure-là, il faut en aviser le ministère des Affaires municipales. Donc, c'est la résolution que vous avez devant vous. Qui propose? On le fait tous les années.
Je vais proposer.
Bernard,
Bernard, qui a proposé? Je n'ai pas vu. David? C'est qui
non,
qui a proposé?
J'ai secondé.
Moi, j'avais proposé, mais ce n'est pas grave. Là.
OK, bien c'est ça. Je cherchais le proposant, mais étant donné qu'on ne voit pas à l'écran, j'ai de la misère. Je vois juste iPad, moi, là. Là. C'est pour ça. Okay. Là.
Mais bon. Je vais le nommer à l'avenir.
C'est beau. Donc, on est rendu à volet 3 du FER, FRR, projet signature innovation. Vas-y, Annick.
Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, là, au mois dernier, là, on a parlé là, du nouveau montant qui nous était octroyé là, à la MRC en lien avec tout ce qui est projet innovation, qui est le volet 3 au niveau du fonds région-ruralité. Donc, comme je vous avais dit, là, il y avait certaines démarches qui étaient faites en lien avec des réflexions au niveau des agents de développement. Puis, on a quand même aussi travaillé ce dossier-là en comité administratif. Je vous dirais, là, vous avez là, la résolution qui a été adoptée par le comité administratif. Ce qu'on vous proposerait, c'est de tenir une journée de réflexion justement pour enligner le projet sur les 5 prochaines années, puis en même temps amorcer notre réflexion stratégique et notre planification stratégique, parce que comme vous le savez, notre planification stratégique a échu en 2019. Donc, on profiterait de l'occasion pour refaire une planification stratégique et en même temps enligner notre projet pour les 5 prochaines années en lien avec le volet signature innovation. Donc, la résolution, ce qu'elle dit, c'est de permettre là, d'aller en appel de candidature pour un consultant pour nous aider justement à amorcer cette réflexion-là, à tenir cette réflexion-là avec l'ensemble du conseil de la MRC pour obtenir une orientation pour les 5 prochaines années, autant au niveau de notre planification stratégique que notre projet signature. Et de demander là, le 50 000 disponible au niveau du ministère des Affaires municipales pour réaliser une telle démarche.
Sébastien propose.
Sébastien propose. Qui seconde? S'il n'y a pas de questions, bien entendu.
Yvon seconde.
On serait maintenant rendu à réfection de deux ponceaux de la cycloroute. Octroi de contrat, David.
Dominique, David. Il n'y a pas de problème, c'est dans la même famille quasiment. Donc, bonjour à tous. Comme vous le savez, là, on avait adopté un règlement d'emprunt là, pour faire des travaux de réfection sur la cycloroute. Donc, on a procédé à l'appel d'offres pour aller chercher des soumissions pour un entrepreneur pour réaliser des travaux au kilomètre 11 de la piste cyclable à la municipalité de Saint-Anselme. Vous avez vu là, dans les documents qu'il y a un rapport d'analyse de soumission qui a été fait par le service d'infrastructure. Donc, on vous recommanderait d'octroyer le contrat de 302 728 et 3 à l'entrepreneur Excavation Yvon Chouinard, là, qui était le soumissionnaire étant le plus bas dans les prix, puis qui était conforme selon nos documents contractuels.
Peux-tu nous rappeler par rapport aux estimés?
Aux estimés, oui, effectivement. Donc, on parle là, de Yvan Chouinard, après vérification des soumissions, taxes incluses, 302 728, puis l'estimation de la MRC, c'était 310 000.
Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à proposer?
Christian propose.
J'appuie.
Je peux poser une question, s'il vous plaît?
Oui, Luc, vas-y.
Oui.
Le fait que l'estimé, on avait un estimé à 310, il me semble que les gars ont tous arrivé proche pas mal. Les contracteurs ont tous arrivé quand même proche. Ça veut-tu dire que, je veux dire qu'ils, je ne sais pas comment le formuler, là, mais je trouve qu'ils sont pas mal justes avec nos cotations, avec nos estimations. Il me semble que nous, on avait prévu des imprévus justement pour arriver à ce montant-là.
Oui.
Je ne sais pas. Je me questionne un peu comment ça se fait qu'ils arrivent aussi bien avec nos estimés qu'ils nous, en plus, on avait évalué justement un peu d'imprévus. Je ne sais pas. Ils sont bons, hein?
Oui, puis en fait, c'est une bonne question. C'est juste quand on fait nos estimations, naturellement, l'entrepreneur, lui, il doit mettre des coûts unitaires ou des prix forfaitaires sur des quantités qu'on met. C'est certain que nous, avec la base de données qu'on a de la piste cyclable, on est en mesure de mettre un prix qui représente le marché. Si vous regardez là, les prix, c'est entre 302 000 et 418 000, là, les différents entrepreneurs. Donc, habituellement, là, ce qu'on vise, là, quand on fait une estimation, c'est de tomber dans le milieu. Ce qu'on vise. Donc, les prix sont représentatifs, Luc, dans le fond. Ouais, c'est pas de. Oui, il y a des imprévus, mais avec les taux unitaires qu'on a, c'est vraiment ce que le marché représente. Je ne m'attendais pas à plus ou moins. Là, c'est ce qu'on vise quand on fait une estimation préliminaire budgétaire.
C'est un hasard qu'il y en a. Ça veut dire que les gens ont calculé pas mal de la même façon. Mais il n'était pas au courant de nos estimés. Il faut bien se comprendre.
Ça, je te confirme.
C'est bon, merci.
Proposition?
C'est fait.
C'est fait. Christian et qui avait secondé? Martin? C'est beau. Travaux d'entretien, cours d'eau boutin, ça doit être encore toi. Oui. Ben, c'est de décréter l'exécution des travaux d'entretien d'une section du ruisseau Boutin sur une distance d'environ 100 mètres, le ruisseau Boutin étant à Saint-Raphaël, puis d'autoriser la réalisation comme on le fait chaque année. Et on vous rappelle qu'après, le coût des travaux est facturable à la municipalité. Qui propose?
Denis propose.
Denis, appuyé par?
Moi, je vais appuyer.
Bernard?
Oui.
Plan d'intervention en infrastructure routière. J'aurais envie de vous faire une proposition parce que Dominique m'a dit qu'il y a pour 30 minutes de présentation. Alors, considérant que, dans le fond, ce que vous vouliez savoir, c'est de se remettre à jour dans ce fameux projet-là, ce fameux programme-là, je vous proposerais peut-être de le reporter parce qu'il n'y a pas de décision à prendre, c'est juste un dossier d'information. Puis ça ne vous pénalise pas dans la demande d'aide financière. Là. Alors, je ne sais pas si vous êtes d'accord ou si vous êtes prêt à faire encore un 30 minutes. Là, sur,
non, d'accord qu'on reporte.
Allez, un report, s'il vous plaît.
Un report? Bon. Il n'y a pas de vote qui est demandé là-dessus? Bon.
Non, c'est correct.
L'embauche service d'infrastructure. Vas-y, parce que là, on a petit oui.
Deux choses.
Oui.
Non, pas deux choses. Une chose. Donc, comme on avait discuté un peu plus tôt, là, suite à un départ d'un ingénieur dans le service infrastructure, on a procédé à un appel de candidature. On a formé un comité là, qui était formé de M. Bernard Morin, M. Gabriel Morin et moi-même. On a rencontré là, on a rencontré différents candidats, puis on en est venu à une recommandation d'embauche. Seulement pour vous mettre la bonne information, c'est qu'à un moment donné, on avait autant des ingénieurs que des techniciens dans le processus de l'offre parce que le poste qu'on recherchait était quand même assez flexible en fonction du calendrier d'activité qu'on avait. Donc, le comité a retenu l'embauche de M. Pierre-Luc Primeau, qui est un résident de Saint-Henri. Qui serait un classe 7 dans notre grille salariale à un échelon 6.
Proposition?
Propose.
David et?
Daniel.
Daniel, seconde. FFR, volet 2, projet local. Annick?
Oui, exactement. C'est un projet qui a été déposé. Là, comme vous le savez, là, quand une municipalité décide de faire un projet en lien avec son enveloppe locale, qu'on appelait l'ancien, le FDT anciennement, maintenant c'est le volet 2 du Fonds Région Ruralité. Donc, c'est une demande que j'ai reçue de Saint-Raphaël. Je l'ai ajoutée à l'ordre du jour pour ne pas les pénaliser dans la poursuite de leur projet. Le projet déposé, c'est en lien avec la mise en place d'un toit sur le terrain de la pétanque. Exactement. Donc, j'aurais besoin d'une proposition là, pour être en mesure de signer les protocoles d'entente avec la municipalité en lien avec FRA.
Joues-tu de la pétanque?
J'ai commencé, David.
J'appuie.
Christian appuie.
Et des Sarto.
Est-ce que je peux poser une question?
Oui, Luc.
Nick, est-ce qu'il y a un montant maximum qu'on peut demander par projet, comme un peu comme les années passées?
Bien, comme je vous ai déposé, là, si vous allez voir dans votre petit document que j'ai déposé, vous pouvez trouver sur le site de la MRC, là, en lien avec la politique de soutien aux projets structurants. Dans le fond, les municipalités qui ont un indice de vitalité économique négatif, ils ont un plus haut montant. Et pour ceux qui ont un indice de vitalité économique positif, là, ça donne un montant là, de 20 000. Attendez un instant.
C'est de l'ordre de
20 000 et quelques dollars. Là, mais si vous allez le voir dans la politique, c'est bien décrit. C'est quoi le montant que vous avez là, pour 2021?
Merci.
Et on vous rappelle que si vous ne le faites pas cette année, si vous ne prenez pas votre enveloppe cette année, elle est cumulative. Comme certaines municipalités ont fait dans le passé, peuvent attendre 3 ans et arriver avec un projet de 60 000. Je suis correct? C'est votre choix. Ou de le financer, de dire je fais tout de suite mon gros projet, puis de reporter vos montants, puis de. Mais par contre, vous allez avoir à supporter un financement parce que nous, c'est des montants annuels qui vous sont versés.
Mm-hmm.
Ça vous va?
Oui.
Pas de question. Bon. 9-10, ouverture du poste de directeur de service d'infrastructure. On en a parlé en séance de travail. Alors, Dominique, rapidement.
Oui. Comme on avait déjà discuté là, dans l'analyse organisationnelle, et aussi dans notre plan là, de réponse à l'analyse, ce qu'on disait, c'est que avec mon arrivée au poste de direction générale, il fallait là, qu'on procède à mon remplacement à la direction de services d'infrastructure. Donc, ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est d'afficher officiellement le poste pour être en mesure d'aller chercher des candidats. Avec une firme de spécialisée en RH là, de type chasseur de tête. C'est une décision, c'est des décisions aussi, pas des décisions, mais c'est des informations qui ont été discutées au comité administratif.
C'est la recommandation que le comité administratif vous fait, puisque tantôt on a fait l'embauche d'un candidat et les candidatures sont assez difficiles à trouver. Or, ce que le comité administratif vous recommande, c'est peut-être de s'allier à un chasseur de tête qui va nous permettre, parce que là, c'est un poste quand même important, parce que le poste qu'on avait ouvert à l'origine, c'était un ingénieur, puis c'est un technicien qu'on a embauché, faute d'ingénieur. Donc là, on veut un directeur de service, on ne veut pas passer à côté. C'est pour ça qu'on s'allierait à un chasseur de tête pour aller chercher la personne désirée. Or, ça prendrait une résolution qui autorise l'ouverture du concours et surtout le fait qu'on veut combler le poste de directeur du service. Qui propose? Jean-Yves propose. Yvon seconde.
Oui.
Ça va? On serait maintenant rendu à Varia. Il y aurait l'invitation de Sébastien. Hein, je ne t'ai pas oublié.
Bon, j'en ai à peu près pour une demi-heure, là, ça sera pas plus long. C'est que rapidement, puis déjà, ben, je m'excuse déjà d'avance auprès des autres membres du comité, je dirais pas loisir, mais dont entre autres Martin, là, l'organisation l'activité sociale.
Le club social.
Le club social. Donc, c'est une discussion que j'ai eue avec Pascal, puis on a pensé un petit quelque chose pour le retour à l'automne. C'est une invitation à, à se faire chacun un tout somme pour venir jouer au golf. Différents objectifs avec ça. Réseauter ensemble, repartir l'automne avec une activité. Et en même temps, appuyer nos deux clubs de golf qu'on a sur notre territoire de Bellechasse. Donc, on souhaiterait que cette activité-là, on en fasse une activité annuelle en alternance avec les deux clubs de golf de la MRC. Et pour cette année, ce qu'on proposerait, ce serait que chaque municipalité se ferait justement, désignerait deux personnes, idéalement le maire ou la mairesse et peut-être même le DG ou, si ce n'est pas possible, un conseiller. Puis on aurait le déjeuner, une clinique de golf pour ceux qui le souhaitent et ensuite, évidemment, la partie en tant que telle. La date qu'on vous propose, c'est le 29 août prochain, donc le samedi 29 août. Et ce qu'on vous demande, bien sûr, c'est d'être en mesure de répondre si on se donnerait d'ici le 1er août pour répondre. Est-ce que c'est trop serré pour vous, moi, pour quand même qu'on planifie tout ça avec le golf?
C'est court. Malgré
que j'ai déjà fait des démarches, là.
Oui, Sébastien, il faudrait peut-être laisser passer notre séance de conseil parce que tu nous demandes peut-être de se trouver un conseiller qui va accompagner deux personnes. Donc, il faudrait l'emmener à nos conseils.
Oui, parce qu'il va. OK. Oui. Okay. Allons-y de même. Puis, comme je vous dis,
Il va avoir les frais d'enregistrement. Donc.
Dans le fond, je peux déjà vous les mentionner. Les frais d'enregistrement, c'est que le club de golf nous fait ça à 60 $ par personne, le quart inclus. Déjeuner inclus et la partie, évidemment.
À Bellechasse?
À Saint-Damien pour cette première année. Pour la première édition, on le ferait ici à Saint-Damien.
C'est beau.
Donc, ça serait le fun. Comme je vous mentionnais tantôt, je pense que c'est une belle activité pour partir l'automne. Réseauter tout le monde ensemble, puis que ce soit un conseiller qui vous accompagne ou un DG. Puis pour ceux qui ne jouent pas au golf, vous chaufferez le cœur, puis. Ça va faire pareil. Là.
Je propose la clôture.
La clôture, David, merci. Oui. Bonsoir tout le monde.
Bonsoir tout le monde.
22h31.
Merci, salut.
Bonsoir à tout le monde. Bon.